Europe 1 Football Club, Lionel Rousseau.
Europe 1 Football Club, comme chaque soir, bien sûr, le football au programme avec nos experts ce soir, Guy Roux, Marc Libra, Javier Prieto Santos, Aline Riera, Jean-François Pérez et notre invité VIP, Daniel Picouli. Et son dernier roman, Longtemps, je me suis couché de bonheur, Albin Michel. On va en parler dans quelques instants, Daniel Picouli, mais d'abord le foot. Bien sûr, c'est une émission de foot, je sais que vous êtes un grand passionné. Vous lisez l'équipe tous les jours, vous regardez tous les matchs, et ça depuis très longtemps. Même déjà enfant, gamin, vous l'avez rencontré dans vos ouvrages précédents. Vous rêviez d'être champion du monde, d'être footballeur.
Moi, je suis né en 48, donc j'ai 10 ans en 58. Le plus beau âge pour rêver d'être champion du monde, c'est 10 ans. Donc là, j'ai Juste Fontaine. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur Juste Fontaine, le 13e but, puisque Juste Fontaine, j'espère que tout le monde le sait, a marqué 13 buts parce que ma maman avait 13 enfants et qu'il lui avait fait la promesse. J'espère que c'est bien noté.
C'est clair pour tout le monde, bien sûr. C'est ancré, bien sûr. C'est dans les manuels d'histoire, désormais, bien sûr.
Donc, Juste a signé. Donc, moi, je suis Pelé à 17 ans. C'est l'équipe du Brésil, Pelé. Voilà. Garrincha, j'étais fou de Garrincha. Et Garrincha a failli me faire faire la connerie du siècle. C'est Garrincha, il a une jambe plus courte que l'autre, ok, et il a eu la poliomyélite. Moi, j'ai dit, gamin, je veux être comme Garrincha. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'attrape la poliomyélite. Et j'ai bu de l'eau dans le caniveau, même elle était folle. Non, mais le môme, quoi. C'est pour ça que je dis aux parents, surveillez quand même vos mômes, quand ils commencent à trop rêver et qu'ils veulent imiter des idoles, ça peut être dangereux.
Quoi. Il y a toujours du football dans vos ouvrages. Ouais. On y revient, c'est souvent l'enfance. Ouais. C'est souvent l'enfance dans des familles nombreuses. Mmh. En banlieue, en banlieue parisienne, c'est votre histoire, sûr, évidemment, mais le foot est là, quasi en permanence, Daniel Picouli.
Le foot, je lui dois mon plus gros tirage. J'ai fait des nouvelles dans l'équipe, et ma dernière nouvelle est dans l'équipe où la France est championne du monde. 1 million d'exemplaires. J'ai eu un tirage à 1 million d'exemplaires grâce au football. J'aurais pas ça avec le reste. Donc je dois beaucoup. J'ai fait des nouvelles. J'ai adoré ça. Suivre la Coupe du Monde en écrivant les histoires qui se passent sur le terrain. C'est un truc magique pour moi. Et grâce à ça, en fait, je vais dire, maintenant je peux avouer, parce que les éditeurs le savent, je n'ai écrit des bouquins que pour avoir des places pour la finale. C'est tout. C'est le seul truc. Voilà. J'ai eu les places. Et mon frangin qui n'a pas pu, il a.
Mais parce qu'il n'y avait pas de bouquin.
Mais à l'usine, il pouvait lui montrer la place parce que c'était marqué Picouli. Il n'y avait pas le prénom. Donc il disait, moi aussi, je l'ai vu la finale. Quoi. Voilà. C'est les histoires de football. Le football, c'est plein d'histoires encore aujourd'hui.
Mais oui, parce que le football, vous le dites très bien d'ailleurs, c'est le reflet de la société. Ce sont des histoires à non plus finir, des histoires extraordinaires aussi, des petites histoires dans la grande histoire, Daniel Picouli.
Je suis Villemomblois. Villemomble, si vous regardez la carte du football, c'est à côté de Bondy. Ça vous dit quelque chose?
J'aurais pu jouer contre Mbappé.
Il l'a échappé belle, Mbappé. Hein, c'était limite. J'aurais pu être à sa place. Voilà.
Non, mais c'est ça.
Il faut que je le rappelle de temps en temps. Parce que,
vous voulez bien de le préciser. Comment vous suivez cet euro? Parce que je sais que vous consommez, parce que c'est le cas encore aujourd'hui, mais que vous consommez beaucoup de sport. Il n'y a pas que le foot d'ailleurs, le vélo, le tennis, tout vous intéresse.
Oui, bien sûr. Non, mais parce que moi aussi, je suis de l'époque de Bahamontès et tout ça. Quand je vois le Tour de France, c'est l'aigle de. Voilà. Donc, Anquetil, tout ça. Bon, c'est parce que fondamentalement, ça raconte des histoires. Là, l'euro, moi, ce que je l'ai dit, je l'avoue, je suis pour le Danemark parce que c'est la plus belle histoire. C'est-à-dire entre le moment où on est dans le drame absolu, et aujourd'hui, la possibilité peut-être de remporter, c'est tout simplement une histoire. Et le football et le sport a beaucoup de talent pour raconter des histoires. C'est plein de drames, c'est plein d'émotions, c'est plein de surprises. Et pour un plumitif, putain, j'allais dire, c'est bonnard, hein, parce qu'il n'a rien à faire. Il suit et il raconte. C'est tout. Donc, on est des suiveurs comme des caravanes. On est là, un stylo à la main. Il y a eu des époques Blondin. On n'a pas de plume au football comme il y a eu la plume de Blondin en cyclisme. Lui, il sirotait un petit peu. Il buvait un petit peu. Il était un petit peu bourré. Ça a fait des papiers extraordinaires. Mais voilà, lui, d'un peloton, un truc qui vous paraissait quasiment inerte, où il ne se passait pas grand-chose, il vous sortait une histoire. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il y ait des histoires. Elles existent, les histoires, s'il y a un mec qui est capable de les raconter. C'est tout. Hein. Parce que sinon, on peut passer à côté, passer à travers.
Et donc, vous droguez au sport. Et finalement, le sport vous inspire beaucoup. Même si dans Longtemps, je me suis couché de bonheur aux éditions Albin Michel, la référence à Proust, bien sûr, vous allez la rappeler, puisque vous, bonheur, vous l'écrivez en un seul mot, c'est l'émotion. Proust, c'était le réveil matinal, je me suis couché de bonheur, évidemment. Ouais. C'est l'histoire d'un adolescent amoureux,
à Orly, oui. Famille nombreuse, tiens, comme par hasard.
Non, mais je suis 11e de 13. Ma mère aurait pu s'arrêter à 11, on avait l'équipe. Elle a fait deux remplaçants.
Bah, vous les remplaçants, bien
voilà.
Sûr.
Voilà. Déjà, elle avait pensé 12e homme, 13e, tout ça, voilà. Ouais. Elle avait déjà pensé à ça. Oui, bah, parce que c'est mon milieu, c'est la cité. C'est-à-dire que les vraies Coupes du Monde, on les faisait dans la cité. C'était, on jouait Ivry contre Vitry, tout ça. C'était ça, les championnats du monde, quoi. Le championnat du Val-de-Marne, c'était le truc le plus important qui existe après la Coupe du Monde et puis quelques matchs de l'équipe de France. Mais tous, vous avez tous connu ça. Le truc en bas de la cité, entre les murs, faire le mur.
Bien sûr.
Bon, donc, faire le mur, c'est ce qu'a fait justement Garrincha. Il jouait contre le mur. C'est pour ça qu'il avait cette jambe. Et Maradona avait cette jambe comme ça aussi, parce qu'il faisait le mur. Mm-hmm. Il tapait toute la journée. Sa mère était folle. Mais c'est-à-dire, moi, je comprends la passion des mômes. Et c'est pour ça que même pour des trucs, on a vu le Tour de France tout à l'heure, et ça m'énerve. Qu'on interdise maintenant de jeter des bidons. Les mômes rêvaient d'avoir des bidons de tel coureur et de tel coureur. On est tous, on fait attention aux déchets, mais pensez aux gosses de temps en temps, à leurs rêves. Pensez à ce que vous étiez, vous, à 10 ans. Vous auriez cavalé pour un bidon d'Alaphilippe. Bon, et aujourd'hui, on ne peut pas. C'est ça ce qui m'embête. Oui.
Ou comme au foot, pour avoir un maillot, avoir un autographe, un short, une poignée de main ou un regard, regard d'un joueur et d'une idole. Il faut y penser. Alors, dans vos ouvrages, et notamment dans « Longtemps, je me suis couché de bonheur » Albin Michel, il y a toujours ce rapport à l'enfance, la diversité. Il y a toujours des personnages, des personnages très divers, en effet, comme dans la cité, comme dans la banlieue, Daniel Picouli.
Regardez-moi, je suis une diversité. Non, mais... je suis une diversité visible. Voilà. Mais parce que ça n'existe pas aussi quand vous êtes dans une équipe de foot. C'est-à-dire, on joue avec des potes, j'allais presque dire qu'on ne sait même pas quelle couleur ils sont.
Oui.
Et c'est quelque chose qui aussi, normalement, devrait nous imprégner dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on en parlera plus tard.
Oui. Quand
des professionnels oublient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire une bande de gamins de toutes les couleurs qui jouent ensemble sans se poser de questions, quand ils commencent un petit peu à déraper, on a presque l'impression qu'ils ont oublié leur enfance, qu'ils ont oublié la bande de potes avec lesquels ils jouaient, qui a été la vraie première équipe dans laquelle vous étiez et qui était sûrement peut-être la plus belle. J'ai vu un reportage sur la Coupe Gambardella. Les gars, 30 ans après, c'était des vieux monsieur qui avaient gagné la Coupe Gambardella. Ils avaient 60 piges. Ils s'embrassaient comme des mots, mais pour eux, c'était le plus beau souvenir qu'ils aient eu. Moi, ce que j'ai envie, pourquoi je raconte des histoires, c'est pour qu'on n'oublie pas les nôtres. On a tous vécu comme des mômes. On a tous été fous comme des mômes. Et on a l'impression que parfois, il y en a certains, il y a les couleurs qui s'éteignent et qu'on oublie ça. Non! Oublie pas les mômes. Parce qu'en plus, les mômes, ils te regardent, t'es un exemple. Oui. C'est-à-dire que quand tu parles comme tu parles pas en bas de la cité à tes potes. Tu parles à des millions de gens. Ces gars-là sont des exemples. Et il y a des gars qui vont rêver d'être eux. Et ils vont les écouter, ils vont pas être malheureux, ils vont être tristes.
Ils ont une responsabilité.
Mais bien sûr.
Mais la génération actuelle, peut-être, ne s'en rend pas compte.
Mais
par rapport aux joueurs que vous avez adorés quand vous étiez adolescent.
Mais alors, tu te recules, tu regardes ta voiture. Et tu vois bien que c'est pas une Dinky Toy, c'est une Ferrari. Il s'est passé des choses entre-temps. Le sport t'a donné. Tu as une position. Quand tu parles, on t'écoute. Donc, n'oublie pas ça.
Est-ce qu'il réalise vraiment, Daniel Picouli?
Eh bien, qui se recule et qui regarde en bagnole. C'est tout.
Attention, parce que s'il recule trop, et ils vont être obligés de changer le pare-choc, ça coûte
très
cher.
Non, mais je veux dire qu'ils se rappellent le môme qu'ils étaient. Moi, j'ai envie de leur dire, garde un truc de quand tu étais môme dans ta poche tout le temps. Tout le temps. Garde-le. Et quand tu sens que tu t'embarques un petit peu... Tu le sors.
Vous avez quelque chose quand vous étiez môme dans votre poche?
Moi, j'ai toujours, parce que j'ai des poches pleines à tête, moi. Donc j'ai plein de trucs.
C'est ça.
Dans mes poches.
Ouais, c'est bien. Vous avez des souvenirs, évidemment, et vous les racontez très bien. Et ça inspire, évidemment, notamment votre dernier roman, Longtemps, je me suis couché de bonheur, aux éditions Albin Michel. Vous restez avec nous, Daniel Picouli, bien sûr, pour parler foot encore. Et notamment, c'est un sujet de société. Le racisme dans le foot, ça devient. Assez récurrent, de plus en plus prégnant dans notre société aujourd'hui, dans la société du foot telle qu'elle est. Et cette vidéo 2019 dont on va parler dans quelques instants, dans laquelle on voit Griezmann et Ousmane Dembélé prononcer, j'ai pas envie de dire proférer, mais prononcer des paroles racistes à l'encontre de Japonais, d'Asiatiques. Est-ce un dérapage? Peut-on vraiment parler de racisme? On y revient dans quelques instants avec nos experts et notre invité Daniel Picouli.
Europe 1 Football Club, Lionel Rousseau.
Europe 1 Football Club jusqu'à 22h ce soir. Giroud, Aline Riera, Javier Prieto Santos, Jean-François Pérez, Marc Libra, notre invité VIP, Daniel Picouli. Son dernier roman, Longtemps je me suis couché de bonheur, aux éditions Albin Michel. Et j'avais presque oublié Tilou Bleu, joue au foot aux éditions La Rouge Jeunesse. Alors ça, c'est Daniel Picouli, vous le signez avec Frédéric Pillot. C'est pour les enfants.
Oui, oui, c'est toute une série pour les petits. Et bien évidemment, un livre d'actualité, Tilou, qui est notre petit héros.
Qui est le plus chou, le plus bleu, le plus loup, c'est Tilou Bleu. Ouais. Tilou qui a un nouveau ballon et Papoune lui apprend à devenir un vrai footballeur. On y est, non, là. Ça vous rappelle des souvenirs, là, Aline Riera, j'en suis sûr, non?
Oh, c'est trop mignon.
C'est beau, hein?
Oui.
C'est
mignon.
Pour vous, alors.
Je peux lui offrir?
Ah, oui, oui,
ah bah voilà, je vous l'offre, Aline. Oui. Voilà, regardez.
Voilà.
Magnifique,
merci beaucoup.
Il est beau, voilà.
Je prends avec plaisir.
La France aurait mérité une mascotte de ce genre.
Voilà, mais j'en suis sûr. Ah, oui. Et Tilou Bleu,
on va s'en
pas
chanter.
Une petite dédicace.
Bien sûr, vous aurez votre dédicace, Aline Riera. Vous voyez comme quoi, vous avez bien fait de venir dans cette émission.
Voilà.
Marc Libra vous fera aussi une dédicace, il en rêve, il en rêve. On en revient à des sujets malheureusement un petit peu plus sérieux. Je vous le disais en titre il y a quelques minutes, en 2019, Griezmann Dembélé avec le Barça était en tournée au Japon. Et on sait que Rakuten, pour ne pas le nommer, est le sponsor principal japonais, bien sûr, du Barça. Et dans le cadre de cette tournée, il y avait aussi l'un des sponsors d'Antoine Griezmann, qui est une marque de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo, qui est venu à sa rencontre avec, je vous raconte la scène, des Japonais, 4-5 Japonais, qui sont dans la chambre d'hôtel de Griezmann pour installer apparemment ce qu'on pourrait appeler une console ou faire des réglages. Et dans cette chambre, donc, il y a Griezmann sur son lit, allongé à côté de lui. Il y a également Ousmane Dembélé. Ils sont très amis, tous les deux. Et Ousmane Dembélé, comme le font les jeunes aujourd'hui, mais peut-être les plus anciens aussi, moi le premier, on est avec son téléphone, on regarde les réseaux sociaux, on filme, on prend des photos. Et il a filmé une scène qu'on a retrouvée ensuite sur le réseau social Snapchat, qui est un réseau social éphémère, c'est-à-dire qu'on peut laisser pendant 24 heures cette vidéo ou cette photo aux yeux du public, et puis après elle disparaît. Cette vidéo a ressurgi plus de 2 ans plus tard. Elle est assez édifiante. Alors, il y a des propos racistes, bien sûr, mais il y a aussi, pardonnez-moi, je le dis très ouvertement, mais j'assume mes propos, de la bêtise. De la bêtise de la part de Griezmann et surtout d'Ousmane Dembélé, puisque c'est lui qui prononce les phrases les plus embarrassantes. Je vous propose d'écouter les 15 secondes, enfin les meilleurs moments, si je puis dire, ou les moins mauvais, de cette séquence vidéo.
Toutes ces sales gueules, bourgeois PES, mon frère. Si t'as pas honte, toi putain la langue. Et là, vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays là?
Voilà, et puis il y a aussi les sales gueules. Les sales gueules avec juste à 2 mètres d'eux, ces 5 Japonais qui évidemment ne comprennent pas et sont en train de travailler. Avant de céder la parole à nos experts, Daniel Picouli, je me retourne vers vous. Ouais. Quelle est votre réaction, votre sentiment quand on imagine très bien en plus les deux joueurs affalés sur leur lit, tranquilles, en train de papoter entre potes, presque on fume de la chicha, c'est pas le cas, mais on en est presque là, quoi.
Mais oui, mais alors il y a, on va pas les, moi j'ai pas les accabler. Il y a dans le football quelque chose qui est à la fois somptueux et mortifère, c'est le chambrage. Le football, c'est chambrage tous. Là. Quand vous étiez au poste où vous étiez, vous chambriez le gars qui est en face.
Et on a même encore aujourd'hui.
Et on a même un statut. On a même un statut si on est un bon chambreur dans une équipe ou dans un groupe. Là, sauf qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. D'abord, premièrement, Snapchat, ça ne s'efface pas comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils filment. Bien sûr, la vidéo a été filmée avec un téléphone par quelqu'un. Donc, ne croyez surtout pas que ça s'efface. Ça peut ressortir n'importe quand. Donc que ces gars-là ne sachent pas, ne comprennent pas dans quel monde ils vivent, dans quel monde qui les fait vivre, c'est ça que je trouve le plus désolant en même temps. Après tous ces propos-là, franchement, je ne vais pas les crucifier là-dessus. Je vais leur dire, vous faites les cons. Vous faites les cons, c'est ce que vous avez fait. Et surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des modèles pour des gosses. Pour des gosses, vous êtes des modèles. Ils ont leur maillot. Et d'ailleurs, vous adorez qu'ils achètent votre maillot. Vous adorez signer leur maillot aux gosses. Et vous leur faites ça. Moi, c'est ce qui me désole le plus, de ne pas avoir conscience, de ce qu'on est, de ce qu'on représente pour les autres. On a tous eu des héros. Et on est beaucoup plus déçus quand c'est quelqu'un qu'on aime qui fait des conneries comme ça. Voilà, je veux pas en rajouter des tonnes et des tonnes, parce que ce qu'ils disent, c'est effectivement, c'est de l'ordre de la chambre.
Les sales gueules, voilà, ils se foutent, oui, t'as pas honte de travailler ou d'abonder dans le sens de cette population, en quelque sorte. Voilà comment ça se traduit. Alors, les excuses ont été prononcées, Giroud, Ousmane Dembélé d'abord, puis ensuite Antoine Griezmann, qui a bien précisé qu'il n'a jamais tenu de propos racistes et qu'il n'a jamais pensé à tenir des propos racistes et qu'il s'excuse évidemment s'il a blessé des gens. Mais il y a quand même des précédents avec Antoine Griezmann. Ouais. Pour rire, blackface, déguisé en basketteur noir sur les réseaux sociaux. Voilà, ça rappelle quand même des temps un petit peu délicats. Qu'est-ce que vous en pensez, Giroud ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans le cadre dans le contexte d'une génération perdue, inconsciente, qui ne se rend pas compte ? Ou alors, finalement, le poids des mots a pour eux vraiment une importance.
Je vais vous citer Léo Ferré. Les temps sont difficiles. Nous vivons une époque terrible. On va chercher 2 ans en arrière des phrases idiotes, bien sûr, qu'ils n'auraient pas dû prononcer. On va les chercher et on va s'en servir pendant 24 heures, enfin. C'est plus les mêmes hommes aujourd'hui, Griezmann et Dembélé de cette époque-là. Je suis souvent moi-même surpris dans des coups comme ça. Pas des coups de racisme, mais
sur des propos qui sont déformés ou qui sont sortis de leur contexte, Guy, c'est ça ?
Oui, exactement.
Ouais. Bon, en tout cas, propos racistes, il y a, Jean-François Pérez. Dans une société aujourd'hui où tout ce qui est dit est écouté, scruté, décortiqué au microscope, et notamment en matière de racisme, je rappelle ce qui s'est passé notamment avec l'arbitre roumain lors du match du Paris Saint-Germain, qui a prononcé le mot noir dans sa langue et ça a été pris pour nègre, je résume la situation. On est là quasiment un peu dans la même chose, mais dans une espèce de fange, finalement.
Non, je suis pas d'accord. Non.
Bah dites-nous alors.
J'ai été atterré de voir ça ce matin. J'en revenais pas.
Ça, c'est sûr.
J'en revenais pas parce que l'une des grandes différences par rapport à tout ce dont on vient de parler, c'est que les gens qui travaillaient pour Dembélé et pour Griezmann étaient sans doute extrêmement contents de bosser pour des stars du foot, sans se rendre compte que derrière, les autres se moquaient d'eux de façon finalement assez malveillante. Parce qu'il y a un peu de méchanceté là-dedans, au-delà des paroles. Il y a une espèce de condescendance. Il y a quelque chose qui n'est pas sympathique, en fait, dans ce film. C'est, comme on dit aujourd'hui, c'est malaisant. Voilà, j'ai ressenti une espèce de malaise en regardant ça. Et je me suis dit, heureusement, pardon, hein, au risque de vous choquer peut-être, hein, mais heureusement que ce n'est pas Giroud ou Lloris dans un hôtel à Bamako ou à Alger. Parce que là, c'était pas le petit débat qu'on fait ce soir, là. Là, c'était la révolution.
Ça met le feu, là. Ouais.
Donc, ça veut dire que dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, les indignations sont quand même un petit peu sélectives. C'est-à-dire que ça, ce soir, on le déplore, mais au final, je pense que dans 48 heures, tout le monde aura à peu près oublié. Tandis que si on s'était pris à d'autres catégories de population ou d'autres couleurs de peau, ça aurait été 10 fois plus médiatisé et 10 fois plus dramatisé.
Ouais.
Et je pense que ce qu'ils ont fait là, j'ai du mal à les excuser parce que certes, Guy, on est en 2019, mais ils sont déjà champions du monde, ils sont déjà joueurs professionnels et pour Griezmann, il est déjà père de famille. Voilà, j'ai un peu du mal à passer l'éponge sur cette histoire-là. Après, des bêtises, des trucs, etc. On en fait tous. C'était dans un cadre privé, etc. Ils le savent très bien. Didier Deschamps leur rappelle en permanence qu'il faut faire gaffe avec les réseaux sociaux. Pourquoi ils vont faire ça encore ?
Non, mais alors, en plus, c'est un terrain extrêmement dangereux pour sortir un tout petit peu du cadre du foot. Mais on va y revenir très très vite avec cette comparaison. Il y a quelques mois, Brahim Boulel, qui est un acteur franco-algérien qui a vraiment réussi dans la série Validée, que vous avez peut-être vu sur Canal+, qui était consacrée au rap, était avec un ami à lui au Maroc, sur une terrasse, et il a filmé à leur insu des enfants et des gens sur une terrasse, et ils ont tenu des propos aussi aussi dégueulasses que ceux de Dembélé et Griezmann aujourd'hui. Sauf que la vidéo, ils l'ont évidemment publiée sur les réseaux sociaux, elle n'est pas restée très longtemps. Les autorités marocaines ont récupéré cette vidéo. Et aujourd'hui, Brahim Boulel, il est en prison pour un an au Maroc. Pour avoir publié cette vidéo.
Mais lui, il pensait être drôle, son humoriste.
Non, mais parce que vous ne pensez pas que Ousmane Dembélé, il croit être drôle aussi ?
Non, mais c'est un humoriste.
D'accord. Mais enfin là,
ils ne sont pas humoristes.
Non, d'accord.
Il le dit quand même
en rigolant.
Dans la moquerie.
Bien sûr, c'est lui. Il pense faire de l'humour. Il pense faire de l'humour. Non, mais ça veut dire
après ni l'un ni l'autre, c'est. Enfin, je trouve que la situation de un an de prison pour même s'il a dit des saloperies, des dégueulasseries. J'ai pas vu la vidéo en question. Un an de prison pour
c'est
ça.
Des allusions à la c'est des allusions à la prostitution. Ouais, mais c'est pas une question de pays ou de France ou de.
Pour le coup, en France, il prendrait pas un an de prison. Bah, pour le coup.
Peut-être pas, parce qu'il y a un règlement particulier. Mais il y a des pays, en tout cas, où on peut punir très sévèrement ce genre d'acte de vidéo. Au Japon, ça aurait très bien pu arriver.
Au Japon, moi,
ça aurait très bien pu arriver.
Moi, ce qui me choque le plus, c'est que je vous coupe, j'interviens.
Vas-y.
C'est que vous l'avez précisé en début de l'allocution, c'est-à-dire que c'est le sponsor Rakuten du Barça. Sachant la situation économique du Barça, c'est un peu comme s'il crachait quelque part dans le.
Mais ils se rendent même pas compte.
Ouais, est-ce que
moi, c'est ça qui me pose un souci. C'est comme Pogba,
c'est
comme Ronaldo qui retire le coca et Heineken. S'il n'y a plus de sponsor, il n'y a plus de footballeur, il n'y a plus de réseaux sociaux.
Ils sont à des années-lumière.
Et c'est terminé. Quoi.
C'est deux ans après la polémique de Blackface pour Griezmann.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Effectivement, ouais, deux ans après, en effet. Mais on lui en a beaucoup parlé et il avait dû s'excuser aussi à cette époque-là. Alors qu'il s'était déguisé, il pensait que c'était une belle soirée entre amis, il s'est déguisé en Harlem Globetrotters.
Oui,
sauf que
pour rendre hommage à un joueur de basket.
Après, ça a un peu laissé des traces quand même.
C'est pas le seul à avoir fait du Blackface. C'est inacceptable aujourd'hui. Mais il y en a, et il y a eu des ballons d'or qui ont fait des blackface,
oui, mais
et
on n'en a pas parlé. On est dans une société aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'arbitre roumain, où on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Marc Libra.
Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs sont dans une machine à laver, mais qui les intéresse quand ils veulent mettre on ou off, ils sont capables de le mettre. Parce qu'on parle des réseaux sociaux. Deschamps, c'est vrai, il est contre ça. Mais quand il faut faire un Snapchat pour une marque de fringues, ou pour leur basket, ou pour leur équipementier, on les paye grassement. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont prisonniers de ça, quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je suis joueur de foot, peut-être que je ne participe pas avec tous les réseaux, ou peut-être que nous, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment.
Vous aviez le téléphone filaire quand même à l'époque, Marc Libra.
À la maison. Rassurez
tout le monde. Vous aviez téléphoné, si vous voulez. Oui, d'accord.
Ouais, mais c'était loin.
Avec le clavier rond là.
Ouais. D'accord. C'était un petit peu long. Mais après, ce qui m'a dérangé le plus, outre les propos, c'est l'attitude de ces deux joueurs qui sont presque en slibar. Excusez-moi du terme. Tranquillou, il y a deux personnes qui sont à genoux, qui sont en train d'essayer de régler. Et ils se foutent de leur gueule.
C'est ça.
Je reçois des gens à la maison, j'ai un problème internet, je voulais un café. Alors attention, on est bien d'accord, ils ne sont pas chez eux. Mais on reste à côté, on est bienveillants et on ne les filme pas. Je suis désolé.
Ah non,
on ne les filme pas.
Ça
veut dire quoi ? Non mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'en as rien à faire. Et ton attitude où tu es vraiment vautré sur le lit en train de faire ça. Tu peux dire des conneries, tu peux dire des bêtises. Mais là... Cette attitude-là, je pense que si mon fils, Lucas ou Léo, 22 et 25 ans, sont capables de faire... Je lui ai mis une tarte dans la figure, mais je ne sais pas, je reçois des gens à la maison, mais ça ne se fait pas. Les gens travaillent, on se met à côté, vous avez besoin... Là, c'est juste un manque de respect total. Et ça rentre dans l'éducation. Il n'y a pas d'éducation à ce niveau-là.
Aline Ria, est-ce que c'est un problème d'éducation, un problème de comportement, de génération ? J'en parlais avec Daniel Piccoli tout à l'heure, la génération.
Tu as dit juste, devant leurs parents, ils ne le feraient pas, ça.
Bien sûr.
J'espère pas. Griezmann et Dembélé ne le feraient pas.
J'imagine que les parents, s'ils ont vu cette vidéo, je pense qu'ils en ont eu écho, en tout cas, ils doivent avoir honte et ils leur ont remonté les bretelles. Votre sentiment, Aline Ria ?
Oui, alors je pense que ce sont des joueurs qui sont complètement hors de la réalité, beaucoup trop, et à qui. Ils mériteraient qu'on les remette un petit peu de temps en temps face à leurs responsabilités. La notion d'exemple est là depuis des années et doit perdurer. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre exemple sur ce genre de choses parce que la première excuse, c'est de dire que c'était dans le cercle privé. Bah, dans ce cas, on ne filme pas et on ne passe pas sur le réseau Snapchat parce qu'on sait très bien que ça passe dans le réseau public. Donc, si c'est dans le privé, c'est pas beau. On peut peut-être le penser et voilà, ça reste... Mais c'est la notion d'exemple, la notion de respect, tout ça, ça a été bafoué sur une petite vidéo. Et il mérite d'être recadré, tout simplement, parce que ça reste de l'éducatif. On est tous les ans, on apprend à chaque année, on peut grandir un petit peu. Et j'espère qu'ils vont grandir de tout ça, j'espère. Mais comme ils n'en sont pas, c'est vrai que ça fait deux ans, mais deux ans, c'est quoi ? Jean-François l'a dit, on est père de famille.
Il y a une telle impunité pour ces stars. Ce sont des stars, ce sont des millionnaires en short, quoi.
Oui, mais à un moment donné, si on ne statue pas là-dessus et qu'à un moment donné, on ne les met pas face à la réalité en faisant, je ne sais pas moi, des travaux d'intérêt généraux ou aller voir la réalité des choses ou aller se confronter à ce genre de choses, ça va se reproduire. À un moment donné, il faut...
Je suis pas sûr que les vidéos servent comme preuve en France.
Non, mais
c'est illégal. Mais effectivement, la FED...
De même. Je veux dire quand.
Mais le problème, c'est que les agents devraient intervenir.
Bah, il y a tout. Les sponsors, les agents devraient à un moment donné parce que.
Est-ce que ce sont vraiment, les agents qui les encouragent et qui sont de la de leur vidéo, de leur communication?
Non, mais ça fait partie du monde. On sait tous aujourd'hui. On a tous affaire des agents. Ils sont tous dans le don.
J'allais presque dire psychanalytique. Si on voit la scène, c'est un homme blanc et un homme noir qui se moquent d'asiatiques.
Exactement.
Et ils sont en train, l'homme blanc et l'homme noir, c'est-à-dire Dembélé, ne se rendent même pas compte qu'ils se rassurent eux-mêmes sur ce qu'ils sont par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont créé à eux deux les autres. Et ça, c'est à ça peut-être qu'ils feraient bien eux de réfléchir pour ce qui se passe dans leur tête à eux.
Moi, je trouve.
Il y a quelque chose aussi qui me paraît pénible, très pénible ce soir, c'est que sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les associations antiracistes s'élever contre cette vidéo, alors que dans d'autres cas, je pense que ça aurait été déjà le cas depuis plusieurs heures, deux, trois jours déjà.
Les joueurs de foot qui mettent le genou à terre, notamment, ou qui s'insurgent quand il y a des actes racistes.
Griezmann qui a mis fin à un partenariat avec une marque.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction. Alors. Cette solidarité, elle est quand même un peu gênante aussi, ou cette solidarité dans le déni.
Oui, encore une fois, on est sur l'idée des footballeurs qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui n'ont rien dans la tête. On se bat, systématiquement pour ça. Et c'est encore une fois un pavé dans la mare. On se bat contre ce genre de choses. Et la réflexion...
C'est les premiers à dire « no to racism », c'est le slogan.
Oui, surtout.
C'est incohérent par rapport à ce qu'ils disent.
Totalement incohérent.
Griezmann, encore une fois,
il a beau jeu de mettre le genou à terre.
Il ne pense pas parce qu'il y avait l'histoire avec les Ouïghours.
Attendez,
c'est un acte marketing.
Aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, le joueur de foot est un produit marketing. Donc, on va lui dire, à une époque, alors là maintenant, moi, je n'ai pas connu ça, mais à une époque, on va leur dire, moi, quand je travaillais sur les terrains, bon, là, il faut, c'est LGBT. OK, alors là, c'est la journée de la femme. OK, alors là, c'est la journée. Donc, en fait, chaque fois, le joueur doit suivre le mouvement. Mais il n'a pas le choix. Alors, qu'il ait envie ou pas envie. Le problème aujourd'hui, c'est que le joueur, on laisse tranquille, il doit jouer au foot, c'est un divertissement. Pourquoi aujourd'hui on va mener la politique? Pourquoi on va mener des mouvements? Pourquoi on va mener les problèmes sociétaux? On va les mettre au milieu. Et le joueur de foot, il faut qu'il fasse ça. Mais il y en a peut-être qui n'ont pas envie. Ben là, on dit, mais il faut que tu le fasses. Pourquoi tu dois le faire? Parce que tu comprends, ta fédération a signé. Mais non, mais là, tous les week-ends, alors là, c'est le brassard noir. Après, c'est le turquoise. Après, c'est le bleu. Après, il faut mettre du rouge à ce jour-là. Pas de problème. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que le joueur de foot, il peut décider.
C'est bien d'avoir des convictions, de les afficher, mais il faut que ces convictions soient sincères et soient réelles. Et on en doute aujourd'hui, encore une fois, avec cette vidéo qui est, je le disais tout à l'heure en préambule, sans doute de la puérilité affligeante, tout simplement. C'est pas du racisme. On se doute bien que Dembélé et Griezmann ne sont pas des racistes au sens pur, strict du terme.
Mais ce sont des idiots.
Quand vous voyez ce que les arbitres roumains ont payé symboliquement, médiatiquement, pour leur grosse maladresse verbale, sachant que ce sont des gens qui n'avaient pas d'empire coloniaux, qui n'ont pas de personnes noires sur leur territoire, qui ne pensent pas dire à mal, même si encore une fois c'est très maladroit ça mérite d'être sanctionné, ce n'était pas du racisme. Quand vous voyez ce qu'ils ont enduré derrière, vous savez que le quatrième arbitre, il voulait se suicider. Il est dépressif, famille l'a extrêmement mal pris.
Le monde entier l'a traité de racisme et en plus des stars du foot l'ont traité de racisme.
Mais moi ce que je comprends...
Les Mbappé et compagnie ont dit c'est pas possible, cet homme-là, celui-là est un raciste. C'est une catastrophe.
Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on dise le footballeur est un exemple ou est un modèle. Pour moi, c'est pas un exemple, c'est pas un modèle. Il a un devoir de responsabilité, mais moi, j'ai pas
Daniel
envie qu'il se ressemble.
Pour les gosses, c'est des
mais
modèles.
Même pour les gosses, j'ai envie qu'il se ressemble à Dembouge ou
à 10 ans, t'en avais pas
ou à Griezmann.
Mais bien sûr,
mais j'ai jamais voulu être un modèle. Je me suis jamais fait une coupe à la Ronaldo. On est influençable.
Vous en avez lu. Vous en avez lu parce que vous
êtes un joueur. C'est
les
médias.
On a dit pas les cheveux. On a dit pas les cheveux.
Même quand on est gosse, c'est une question d'éducation. On est influencé que lorsqu'on est influençable, je trouve.
Allez, on marque une pause juste pour dire que cette vidéo, elle sort quand même donc 2 ans plus tard. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, à qui profite le crime. Ça, c'est aussi une interrogation qu'on pourrait avoir.
Le Barça a demandé aux joueurs à s'excuser. Et il est probable que sans doute on découvre dans les jours qui viennent que c'était quelqu'un qui souhaitait nuire à Dembélé.
20h50 sur Europe 1, on parle de l'équipe de France versus Didier Deschamps dans un instant.
Europe 1 Football Club, Lionel Rousseau.
Europe 1 Football Club, première partie de cette émission avec nos experts, nos invités Jean-François Pérez, Javier Prieto Santos, Marc Libra, Giroud Alinerira, notre invité VIP Daniel Picouli, bien sûr, avec son roman Longtemps je me suis couché de bonheur aux éditions Albin Michel. Et Aline, vous allez faire la promotion de Thilou Bleu, c'est formidable. Vous allez le faire tout de suite là. Comment vous allez faire d'ailleurs? Tiens.
Comment je vais faire? Ouais. Alors, comme vous avez dit, qui est le plus chou, qui est le plus bleu, qui est le plus loup? C'est Thilou Bleu.
Voilà.
C'est
très bien.
En plus, il est
la France
tout
a son slogan, la France voilà. a sa mascotte, ça y est, c'est
un livre. Non, mais c'est un bouquin génial.
Il est tout
pour
mignon,
les gamins,
il est,
c'est
le
super.
Livre, il est ouais. tout doux, tout ouais. souple, il est très bien.
C'est voilà. un vrai doudou en plus.
C'est pas du tacle par derrière, c'est tout doux.
Exactement.
Le maillot, quelle couleur?
Bah celui-là, il est pas bleu, le maillot est bleu, la couverture voilà. est verte.
Non, mais bleu et blanc.
Le maillot est bleu.
Il s'est pas trompé.
Non, mais c'est pas bleu clair.
C'est pas trop bleu.
C'est pas bleu clair.
C'est bleu et blanc. C'est pareil.
C'est bleu et blanc. Inconscient dans tout ça derrière. C'est vrai.
Comme le maillot de l'équipe de France. Je voulais venir, Marc Libra. Comme le maillot de l'équipe de France. Du bleu, comme la France et comme Europe 1 aussi. L'équipe de France qui va sans doute très vraisemblablement garder son sélectionneur au moins jusqu'à la Coupe du Monde, Didier Deschamps. Mais la question se pose néanmoins, puisque Noël Le Graët, le président de la fédération, a donné rendez-vous à son collaborateur, parce que Didier Deschamps, c'est le collaborateur du président, bien sûr, le président de la Fédé, c'est le patron, à Guingamp, chez lui, ils vont discuter tranquillement pour savoir si les deux ont envie de continuer, si Deschamps a envie de continuer. Giroud, avez-vous l'impression que ce rendez-vous, finalement, ce sont des atermoiements médiatiques et que tout simplement, c'est un rendez-vous pour rien? On nous raconte des histoires, mais on connaît très bien la fin. Vous voyez, c'est pas un roman de Daniel Picouli, là, on connaît déjà la fin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de suspense.
Non, moi je comprends tout à fait. Et c'est un rendez-vous très sérieux. D'ailleurs, Didier Deschamps va faire 1000 km pour y aller. C'est la distance entre son habitation et l'habitation de M. Le Graët. Mmh.
Donc, il traverse la France en diagonale, Giroud, c'est ça hein.
Oui, exactement. Mmh. Et puis, il n'y a pas d'avion direct à Guingamp. Hein. Enfin, il y en a à Saint-Brieuc, mais bon.
Oui.
Non. Moi, je pense qu'ils vont parler boulot. Il y a des petites choses qui sont... Il y a toujours des petites choses qui ne sont pas comme ça devrait être. Et Didier Deschamps en a sans doute souffert. Et il va demander à M. Le Graët d'y veiller. Je lis comme vous l'équipe et les autres journaux aussi. Il y a des journalistes ailleurs que dans l'équipe.
Oui.
Et par exemple, il y avait une dame qui était toujours là, qui est très puissante. Qui est peut-être pas tout à fait dans le métier.
Ils à la fédération, vous voulez dire?
Oui, à la fédération.
Florence Ardoin.
Oui, voilà. Ils vont peut-être lui demander.
Ben
de...
Non, c'est
public. Pas,
c'est la DG.
C'est la directrice générale, donc c'est quelqu'un de puissant au sein de la fédération, Florence Ardoin.
Voilà.
Oui,
et elle participe aux décisions qui n'étaient peut-être pas très favorables au staff technique de l'équipe de France. Et donc, sans que ça soit décisif, sans qu'on en fasse un pack à cesse, les entraîneurs ont digéré ça. Des entraîneurs, il faut qu'ils aient toujours une bonne digestion par rapport aux gens, aux dirigeants qui sont autour.
Bon, il vaudra
alors,
parler
l'équipe
avant le
de
repas,
France, l'équipe de France n'a pas tellement souffert grâce à la personnalité de M. Le Graët, qui est un formidable paravent.
Oui.
Il est indétrônable. Inattaquable, inoxydable. Et il part beaucoup de coups. Mais il y en a peut-être eu quand même, des choses gênantes.
Oui.
Quand il a fallu décider s'il restait dans l'hôtel au centre de la ville ou d'aller ailleurs, etc. Alors je pense que Didier Deschamps, il a des choses à dire et qu'il va les dire. C'est pas pour ça qu'il va dire « si vous faites pas ci, pas ça, je continue pas ». Il a dit « je veux continuer ». Et Le Graët va lui dire « mais oui, mais on veut que vous continuiez, maintenant on va régler les petits problèmes ».
C'est ça, la question n'est pas de savoir si Deschamps va continuer, il va continuer, en revanche, dans quelles conditions et en présence de qui et les petits réglages qui sont à faire.
Qui va payer, c'est-à-dire parce qu'on se réunit comme ça pour trouver les vrais responsables.
Ouais.
C'est une réunion pour trouver les responsables.
Ou pas.
On va les trouver.
Ou pas,
mais voilà.
Qui sont-ils pour vous, Daniel Picouli, les responsables?
Ce que je vois, c'est que la cible, c'est le staff technique. C'est ça, la cible. C'est-à-dire la préparation physique. C'est-à-dire que, en fait, si comment il met son but dans la lucarne, il n'y a pas de problème. On n'est pas éliminé. Et tout ce qu'on parle de préparation physique et tout ça, on n'en parle pas.
Si Pogba perd pas le ballon à la fin de la rencontre, on n'est pas éliminé non plus. On va prendre troisième but. Quoi.
Donc là, moi, je pense que c'est comme au Cluedo, on va chercher le responsable. Voilà, c'est tout. Et il va falloir les
dans la chambre avec le chandelier, Madame Rose.
Voilà.
Ça, je pense que c'est un classique, ça, Colonel évidemment. Colonel Moutarde, si vous voulez, oui. Jean-François Pérès. Donc, elle est importante, cette réunion, finalement, Jean-François,
elle
tout
est moins,
simplement.
Comment dire,
mais
elle est moins
le pouvoir de qui?
Elle est
de
moins anecdotique
ou de Deschamps?
Elle est moins anecdotique que d'habitude. Ouais. Parce qu'en effet, c'est le premier échec de Didier Deschamps depuis très longtemps. Premier vrai échec de Didier Deschamps. Donc, pour Didier Deschamps, qui a sans doute envie d'aller au bout de son contrat, c'est davantage une façon pour lui d'aller dire oui, en effet, j'ai fauté, mais bon, il faut apprendre de ses leçons et donc on va tirer les leçons de cet échec en changeant peut-être quelques membres du staff technique et peut-être aussi la façon de concevoir le rapport entre les gens de la fédération, les administratifs et le staff technique et le reste de l'équipe. Et puis pour Noël Le Graët, il y a aussi une question d'affirmation ou de réaffirmation de l'autorité. Parce qu'il y a eu très récemment des élections à la Fédération française de foot. Il n'a pas que des amis à l'intérieur de la maison. Il a été obligé de mettre en place un plan de départ pour 25 personnes. Et la situation n'est pas extrêmement bonne, financièrement non plus d'ailleurs. Donc je pense que les deux ont intérêt à faire encore un bout de chemin ensemble. Ça a tangué un peu les jours qui ont suivi l'élimination. Je pense que là, ça va se stabiliser. Et puis après, il va falloir repartir du bon pied parce que ça va aller vite. Éliminatoire Coupe du Monde, Ligue des Nations.
L'équipe
de France va avoir beaucoup de matchs et de déplacements.
Il y a les qualifications qui commencent en septembre, oui, aussi septembre. Pour l'équipe de France, voilà, contre la Bosnie notamment. Marc Libra, votre sentiment?
Je pense, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire que ça soit le problème Deschamps, parce qu'au soir du 15 juin face à l'Allemagne, on crie au génie encore une fois. Il a simplement été lâché par certains joueurs et par certains cadres. Mais après, on peut lui reprocher peut-être le timing de Benzema. Oui, ok. Mais après, quand on dit le premier couac, oui, officiellement le premier couac, mais le couac, moi je l'entends si il y a des choses qui sont mises en place et si les joueurs jouent le jeu du début jusqu'à la fin. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué le jeu. Face à la Suisse, cette élimination, ils jouent 15 minutes, ils jouent 20 minutes, ils mettent 3 buts et après on s'arrête, après on ne joue plus. Donc ça, c'est un gros problème. Et Deschamps, il peut faire ce qu'il veut parce qu'on passe à 4, on passe à 3, allez, on remodifie, il a tout fait. Les mecs, ils n'ont pas envie de réagir. Ils n'ont pas envie de réagir. Et c'est Hugo Lloris qui fait la parade, qui réveille cette équipe de France. Oh, on va pas se faire éliminer comme ça. On met le troisième but et puis après, arrêt buffé, on ne joue plus. Et là, il se lève, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et là, ça n'a pas marché. Donc, il n'a, pour moi, rien pu faire parce que certaines personnes, non, du coup, n'étaient pas vraiment en place pour avoir envie d'aller chercher cette qualification.
Aline Riera, pensez-vous que le rendez-vous de cette semaine à Guingamp entre Noël Le Graët et Didier Deschamps peut se transformer en rendez-vous RH? Ça semble être un rendez-vous très amical pour faire les réglages. Et puis, à la fin, ça peut peut-être mal se terminer. Ça peut virer.
Mal, je ne pense pas. Mais de toute façon, quand vous êtes dans une. Là, ce sera une réunion d'employeur-employé. Voyez, quand votre employeur vous fixe des objectifs que vous ne les atteignez pas, il y a un moment donné, il faut chercher le pourquoi du comment, pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Donc là, ce sont deux adultes qui ont certainement vécu des choses qu'on ne connaît pas et qui vont, voilà, d'un côté, ça va être bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette élimination a un coût. Qu'est-ce qu'on fait? Avec quels moyens? Du côté de Didier Deschamps, je pense que c'est ça. Il a encore un an de contrat. Il est prévu qu'il a jusqu'à la Coupe du Monde. La question, elle est là. Est-ce que Didier a encore la motivation? Ça, c'est Noël Le Graët qui va lui poser. Et de l'autre côté, Didier, ça va être oui, mais avec quels moyens? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aura les moyens d'eux? Et voilà, il y a eu peut-être quelques soucis dans le staff avec qui on repart. Et voilà, qui va être... on parlait de Florence Ardoin. Florence Ardoin, elle connaît quand même sacrément le boulot. C'est quelqu'un qui vient de l'escrime. C'est une athlète de haut niveau. Elle sait les préparations des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde, elle sait comment ça se passe. Elle fait, elle, le tampon entre les deux. Voilà, c'était quand même quelqu'un qui connaît un petit peu son métier et qui a été sacrément secoué. Voilà, il y a plein de questions qui restent en suspens. Mais encore une fois, on ne va pas tout jeter parce que ça se joue à 10 minutes. Mais peut-être qu'il y a peut-être des gens qui n'ont plus envie de repartir non plus dans le staff. Je ne sais pas, ça s'est peut-être suffisamment mal passé pour que des gens n'aient pas envie de continuer. Donc cette réunion, elle est tout sauf inutile.
Très bien, elle est importante et on s'en fera l'écho sur Europe 1 si on a toutes les informations, évidemment. Mais on enquête, rassurez-vous. Merci infiniment à Daniel Picouli. C'était un bonheur de vous recevoir, Daniel Picouli.
Merci beaucoup, Daniel.
On adore parler foot avec vous et on adore vos livres aussi, vous le savez.
J'attends le prochain dans les bleus des yeux.
Le documentaire Les yeux dans les bleus.
Ah oui, c'est un double problème.
Les cocards, c'est carrément les cocards. Oui, vous avez raison. Merci, Daniel Picouli. À très vite.
Europe 1 Football Club, Lionel Rousseau.
Europe 1 Football Club jusqu'à 22h. Pas de match ce soir, sinon vous pensez bien qu'on joue les prolongations 23h30, voire plus, quand il y a des prolongations justement et une séance de tir au but. On va prendre le temps de parler foot avec nos experts Marc Libra, Guy Roux, Aline Oriera, Javier Prieto Santos et un nouvel invité, Kevin Vessière, qui est avec nous. Bonsoir Kevin Vessière.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
C'est un vrai plaisir. Vous êtes l'auteur de Football Club Géopolitique aux éditions Max Milo, 22 histoires insolites pour comprendre le monde. C'est très intéressant en fait de se pencher sur le foot par le prisme de la géopolitique, de la politique, de la société tout simplement, avec des exemples dont on pouvait imaginer la teneur, d'autres en revanche qui sont assez surprenants. D'ailleurs, tiens, je fais juste un petit teaser, la Conifa, vous connaissez la Conifa, Aline, Marc, Ravière? Ravière, il connaît.
C'est les sélections qui ne sont pas reconnues, c'est ça?
Ouais, par la FIFA, ouais, effectivement.
Ouais, le Tibet contre...
Le Tibet, le Kurdistan, l'île de Pâques, voilà. plein de sélections dans différents endroits du monde.
Donc tu vois, s'il y en a un dans l'émission qui peut me casser mon effet pour faire genre, bah non, on ne connaît pas, parce que le chapitre sur la Conifa de Kevin Vessière, ça va être vachement bien. Bah non, bah en fait, on a...
Okay, je suis désolé, tu connais tout,
donc c'est ça qui est formidable. Il n'y a pas que ça.
Mais c'est fascinant.
Est-ce que la géopolitique, Kevin Vessière, influe tant que ça sur le football?
Un petit peu, on a pu le voir durant cet Euro. Déjà avec avant l'Euro, il y a eu l'histoire autour du maillot de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, avec le maillot ukrainien qui reconnaissait un territoire qui était revendiqué par la Russie. Et puis même là, durant cet Euro-là, on a vu qu'il y a eu le cas avec le stade de Munich, avec le stade qui voulait se mettre aux couleurs LGBT pour protester contre la Hongroise. Et finalement, l'UEFA n'a pas su quoi faire et n'a dit finalement que c'était pas la peine pour Munich de faire cela. Donc la géopolitique peut très vite s'imbriquer dans les compétitions de football.
Et le football peut être un outil politique. Oui, aujourd'hui, mais hier aussi.
Oui, bah là, on peut le voir avec le cas de la Hongrie ou de l'Azerbaïdjan. Et puis, ce sera encore plus le cas en 2022 avec le Qatar qui accueillera la première compétition pour un tout petit pays qui n'a pas de culture football, mais pourtant qui va accueillir cette Coupe du Monde.
Pourquoi la Hongrie ?
La Hongrie, parce que il y a un côté autour de Viktor Orban qui utilise le stade de Budapest, qui était le seul stade à avoir la jauge de 100%. Et du coup, pour favoriser sa politique vaccinale, pour montrer sa force, que c'était le seul pays qui avait la meilleure politique vaccinale dans l'Europe. Et puis après, derrière aussi, sur le fait que Budapest était une ville qui pouvait accueillir différents événements européens et qui pouvait mettre la Hongrie en lumière plutôt que pour d'autres côtés politiques autour de ce pays.
Bien sûr, alors on va parler des exemples insolites dans quelques instants. La Conifa que connaît Javier Prieto Santos, mais d'autres, le statut de Gibraltar aussi, qui est sur le sol espagnol, mais qui joue contre l'Espagne, ça peut... Enfin, c'est possible. D'ailleurs, c'est possible que Gibraltar puisse jouer contre l'Espagne.
Normalement, ce n'est pas possible d'après les règles de l'UEFA, mais après, on a vu là que Russie, Ukraine, c'était possible en quart de finale.
Ça aurait pu arriver sur cette Euro.
Après, Gibraltar, pour se qualifier en Coupe d'Europe, enfin en Championnat d'Europe des Nations, c'est quand même assez compliqué.
Voilà, parce qu'il y a des enclaves, en tout cas des régions du monde qui sont sur des territoires. Et c'est assez fascinant.
Il y a l'Espagne qui ne voulait pas jouer contre le Kosovo récemment.
Oui, pour des raisons politiques.
Pour des raisons politiques, parce que reconnaître le Kosovo, ce serait laisser la porte ouverte aux Catalans pour une reconnaissance de leur État, nation.
Bien sûr, et il y a la République turque de Chypre, c'est-à-dire que sur l'île de Chypre, on a un territoire turc avec une frontière, un no man's land, Guy Roux. C'est quelque chose qui... Oui, dites-nous.
Et l'équipe nationale de la Guadeloupe qui fait la Coupe d'Amérique centrale.
Dans la zone CONCACAF.
Avec des joueurs français.
Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une...
C'est exactement le même exemple que ceux que vous avez donné. Mais enfin, moi, si on m'avait demandé de voter, j'aurais voté pour. Oui. Parce que c'est pas parce qu'ils vont jouer au foot entre eux. Ils habitent à 10 000 km de chez nous. On va se faire une équipe de foot, puis on va faire un championnat entre nous, avec tous les gens qui sont à 10 000 km de l'Europe et à 5 000 de l'Amérique latine. Ben, je dis, c'est bien joué.
Est-ce que c'est une anomalie, alors justement, que l'équipe de la Guadeloupe, comme le dit Guy Roux, participe à des compétitions dans la zone
Après, ça dépend des territoires. Là, c'est parce que, si je ne me trompe pas, parce que je connais moins ce cas-là, c'est que la Guadeloupe est autorisée par la zone CONCACAF, par la Fédération d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, mais pas par la FIFA. Donc, du coup, ils ne peuvent pas participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais par contre, ils peuvent participer à la Gold Cup là, qui aura lieu durant cet été-là. Mais c'est vrai que oui, parfois, il y a certains cas où on se demande pourquoi est-ce qu'ils peuvent participer à telle compétition ou pas à une autre. Et donc là, c'est pour le cas de la Guadeloupe, c'est effectivement le cas.
Alors, parlez-nous aussi parmi les chapitres passionnants de votre ouvrage, Football Club Géopolitique aux éditions Max Milo, Kevin Vessière. Il y a la Turquie, ça c'est tout à fait d'actualité, avec notamment parfois le comportement ou les agissements du président Erdogan. qui utilisent donc aussi le football, d'après ce que vous racontez, pour faire passer ces messages politiques.
Oui, ben on a pu le voir déjà avec le match du PSG avec l'Istanbul Başakşehir. Et puis c'est vrai que, enfin, là de plus en plus, c'est vrai qu'en 2014, il y avait eu des manifestations en Turquie avec Istanbul United. C'était un regroupement des supporters de Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş qui voulaient lutter contre la politique d'Erdogan. Mais là, on voit depuis quelques années que finalement, c'est tout le football turc qui est sous l'influence d'Erdogan, notamment avec l'Istanbul Başakşehir, mais aussi avec Galatasaray, Fenerbahçe, qui du coup suivent cette voie de que le football est sous l'influence d'Erdogan. C'était aussi le cas avec l'équipe de Turquie, bon, qui a un côté vraiment plus national, vraiment fer de lance de la Turquie. Mais là, c'est vrai que durant cet Euro, on aurait pu voir effectivement Erdogan lié à la Turquie avec cette équipe nationale, mais ça n'a pas forcément été le cas parce que les performances turques n'ont pas été au rendez-vous.
C'est
derrière.
Ça, il doit être foudrage que la Turquie n'ait pas passé le premier tour, alors qu'on s'attendait à ce que cette équipe aille loin dans la compétition.
Bah, c'est vrai que ça aurait pu aller loin, et puis après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir de cette équipe, et puis il y aurait pu avoir des duels qui auraient pu basculer sur le plan politique. On aurait pensé à un France-Turquie, c'était tout de suite un Erdogan-Macron, et donc là, c'est vrai que ça aurait pu... basculer sur le champ politique très vite. Quoi.
Pourquoi Russie-Ukraine est un match improbable? Et s'il avait eu lieu pendant cet Euro, que se serait-il passé?
Bah, c'est une bonne question. Bah, déjà, Russie-Ukraine, c'est interdit depuis 2014 par l'UEFA du fait des déboires politiques qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie depuis 2014. Il y a eu une révolution en Ukraine. Et après, il y a la Crimée qui a été déclarée, qui s'est déclarée indépendante vis-à-vis de l'Ukraine alors que c'était un territoire ukrainien, qui maintenant revendique territoire russe. Et donc, depuis 2014, c'est vrai qu'il y a ce... problématique sur le fait que l'UEFA interdit les matchs entre sélections et clubs ukrainiens et russes parce que pourrait y avoir des débordements derrière. Et donc là, c'est vrai que la question serait posée s'il y avait eu un tel match. Mais qu'est-ce qui serait passé? C'est vrai que...
Match aurait eu lieu, là on est d'accord.
L'UEFA, le match aurait pu avoir lieu, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup de transactions entre la Russie et l'Ukraine. Et donc la Russie, vu que le maillot de l'Ukraine revendiquait un territoire qui était russe, aurait pu se dire, on boycotte la compétition parce que l'Ukraine met en avant des symboles qu'on ne reconnaît pas. Quoi.
Alors, le cas de Gibraltar, moi, il m'intéresse vraiment ce cas de Gibraltar, parce que c'est une enclave sur le territoire espagnol, au sud de l'Espagne, mais c'est un territoire britannique, c'est ça?
Ça, c'est un territoire d'outre-mer britannique.
Britannique, voilà, exactement. Donc, peut-être expliquez-nous la genèse de l'histoire, pourquoi Gibraltar est un territoire d'outre-mer britannique, comme les enclaves de Ceuta et Melilla sur le continent africain, au Maroc, bien évidemment. Mais là, principalement pour Gibraltar, sur le territoire espagnol. Et pourquoi il y a des tensions et des dissensions?
Bah ça remonte au XVIIIe siècle. Il y a eu les guerres entre l'Espagne et puis l'Angleterre. Et donc, c'est vrai que ce territoire qui est quand même assez stratégique, puisque Gibraltar, c'est quand même une porte importante vers la Méditerranée et vers l'Atlantique. Et donc, depuis ce moment-là, il y a des tractations entre ces différents pays. Et c'est vrai que depuis que l'Empire britannique a perdu un petit peu de sa superbe, le Royaume-Uni essaye de rechercher un petit peu, de récupérer tous ces territoires qui peuvent être un peu stratégiques. Et depuis les années 1960, le Royaume-Uni a essayé de récupérer ce territoire, a essayé de récupérer ce territoire, mais c'est vrai que le Royaume-Uni, même les Gibraltariens veulent rester au niveau du territoire de la Royaume-Uni, mais après c'est vrai qu'avec le Brexit, ça pose cette question, est-ce qu'ils vont pouvoir rester aussi longtemps qu'ils le veulent au sein du Royaume-Uni avec cette question effectivement de l'espace Schengen, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, Gibraltar reste au niveau du Royaume-Uni, mais l'Espagne reste à l'affût pour pouvoir reconquérir ce territoire qui est quand même un territoire stratégique.
Au niveau d'éliminatoire éventuel, pourrait-il y avoir un match Gibraltar-Espagne? Tiens, un tirage au sort.
Pour l'instant, non, parce qu'au niveau du tirage au sort, c'est comme pour Kosovo-Serbie, comme pour Ukraine-Russie. Gibraltar-Espagne peuvent pas être tirés ensemble. Par contre, le hasard, effectivement... de la compétition peut faire qu'ils peuvent se rencontrer, mais bon, pour l'instant, ça reste assez compliqué parce que Gibraltar sont quand même très loin de pouvoir se qualifier à un euro. Quoi.
Ouais. En revanche, il peut y avoir un match entre Gibraltar et Saint-Marin.
Oui, tout
à fait. Parce que Saint-Marin, c'est le...
Un choc.
C'est un choc au sommet. C'est la plus petite équipe du monde, raconte Kevin Vessière dans son ouvrage. Pourquoi Saint-Marin est la plus petite équipe de foot du monde? On sait déjà que c'est un très petit état.
C'est la plus petite équipe du monde parce que c'est la dernière équipe au classement
FIFA.
C'est
pas celle du Vatican, la plus petite équipe du monde?
Mais je crois pas. Alors
il n'est pas au classement FIFA, peut-être.
Je crois que c'est pas au classement FIFA. Par contre, ils font quelques matchs. Ils ont pu faire quelques matchs contre l'équipe d'Occitanie ou d'autres sélections. D'accord. Mais par contre, non, le Vatican n'est pas dans le classement FIFA. Mais c'est vrai que Saint-Marin, c'est vraiment la dernière équipe.
Je vais en parler au pape parce que c'est pas normal qu'il soit pas dans le classement FIFA. Voilà. Directement.
Pour l'instant, il peut pas être sur le terrain. C'est vrai qu'il vient de se faire opérer. Donc
oui. En plus. Allez-y, bien sûr. Bien sûr.
Quid de l'Israël? Parce qu'il devrait jouer, je sais pas moi, les éliminatoires du Moyen-Orient ou en Asie. C'est vraiment politique le fait qu'ils fassent les éliminatoires européens.
Ouais, c'est tout à fait politique parce qu'ils se sont fait exclure de la Confédération asiatique dans les années 70. Après, ils ont été apatrides, ils ont été sans confédération internationale. Et donc, ils ont dû même faire, je crois, durant les années 90, les éliminatoires de l'Océanie pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et c'est qu'à partir des années 90 qu'ils se sont retrouvés au niveau de l'UEFA pour participer à ces différentes compétitions. Donc là, c'est vrai que ce serait compliqué de les revoir dans la Confédération asiatique parce qu'il y a beaucoup trop de tensions politiques. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir, par contre, Israël à 1 euro pour voir ce qu'il pourrait y avoir aussi comme répercussions politiques au niveau de la compétition.
Mais ce n'est pas l'ordre du jour qui retourne en Confédération asiatique, donc Israël.
Là, non, pour l'instant, non. Puis même, on le voit avec le cas, par exemple, du Kazakhstan qui était dans la Confédération asiatique, qui est venu au niveau de l'UEFA. L'UEFA a quand même plus d'importance que la Confédération asiatique. C'est plus important de participer aux éliminatoires de l'Euro pour peut-être participer à l'Euro que participer à une Coupe d'Asie des Nations. Mmh.
Pourquoi Saint-Marin, alors, est la plus petite équipe du monde ?
C'est avec Anguilla. Avec Anguilla, je suis sur la FIFA.
D'accord.
Mais tous les deux sont
d'accord. Donc,
210e et 209e.
Saint-Marin, c'est pour l'Europe.
On est d'accord, voilà. Mais donc, c'est pour là.
Vous avez raison. Alors pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce que c'est le territoire qui est considéré comme la plus ancienne république du monde. Et c'est vrai que ce territoire, ça a été dans les années 300 qu'ils ont commencé à fonder cette république-là. Et après, au fil des siècles, ils ont réussi à maintenir leur indépendance, notamment au niveau des guerres d'indépendance d'Italie, parce qu'ils ont aidé l'Italie à s'unifier et à être ce véritable État. Et donc, par la suite, ils se sont dit, c'est vrai qu'on a le tourisme. Après, il y a beaucoup aussi au niveau des timbres que Saint-Marin arrive à se distinguer. Ils se sont dit, pourquoi pas faire par le sport, arriver à se différencier aussi. Et c'est vrai que pour eux, c'est important de participer à ces compétitions de football. Et puis, chaque but, c'est célébré comme une victoire. C'est vrai qu'ils ne marquent pas souvent. En plus, ils ne gagnent pas souvent. Ça fait, je crois, le dernier match où ils ne sont pas perdus, c'est le Liechtenstein en 2004.
Match au sommet, là aussi.
Donc c'est vrai que pour eux, c'est assez problématique. Mais c'est vrai qu'avec la Ligue des Nations, ce qui permet, on en parlait des matchs comme Saint-Marin-Gibraltar, ça peut permettre à des petites équipes de se retrouver et de, pourquoi pas, gagner, de se mettre sur le devant de la scène au niveau international.
Mais dans les faits, là, on en rigole des chocs au sommet, mais dans les faits, on les voit jamais. On a l'impression qu'ils progressent pas, quoi. Le Luxembourg, je trouve qu'ils ont plus.
Et Andorre aussi, un petit peu, de temps
Andorre,
en temps.
Andorre, il y a quelques années, ils avaient causé beaucoup de problèmes à l'équipe de France en Andorre, justement.
1-0. 1-0. Pénalty de Leboeuf.
Exactement.
Bien sûr, je m'en souviens très bien.
Oui, je voulais dire que Gibraltar, c'est très important, parce que lorsqu'il s'est agi de ne pas jouer, d'arrêter les championnats, il y a eu Gibraltar, la France et le Pays de Galles.
Oui, vous confirmez, Kevin ?
Oui.
Oui, d'accord, très bien. Bon, de toute manière, on confirme toujours quand
bon, le Luxembourg, pendant que vous avez, j'ai la parole.
Bien sûr, allez-y.
Le Luxembourg, c'est la grandeur d'un département français, un peu. Oui. Il y a un championnat du Luxembourg. Il y a des clubs professionnels dans le Luxembourg, du Delange, etc. Des clubs qui jouent avec des équipes semi-professionnelles.
Esch-sur-Alzette.
Voilà, exact. Et qui ont joué des grands matchs de Coupe d'Europe sur AZ.
Bien sûr, bien sûr. Et vous avez déjà joué, Guy, vous, contre des clubs de pays un peu improbables, hein. C'est pas du tout une critique, mais style Saint-Marin ou Luxembourg, ça vous est arrivé avec la JA de jouer contre des équipes
non,
de ce type-là ?
Je suis allé à Chypre en Coupe Intertoto. Mm-hmm. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Bon, on m'a expliqué, l'équipe que nous avons rencontré, je ne me rappelle plus du nom, elle était de l'autre partie de Chypre.
La partie turque.
Voilà, mais le stade était du côté pas turc.
Ah oui, d'accord.
Et alors les joueurs ne sont pas venus, je ne sais pas, on a gagné 11 ou 12. Et Givarch a arrondi son nombre de buts en Coupe d'Europe.
Ah, ça explique ces bonnes statistiques aussi en Coupe d'Europe. Alors,
non, il les avait de toute manière.
Non, je sais, ça a été longtemps l'un des meilleurs buteurs du championnat français. Il a toujours marqué beaucoup de buts. Alors justement, on y vient à cette République turque de Chypre, c'est-à-dire que sur l'île de Chypre, on est d'accord, il y a une partie du pays, c'est quoi, c'est un quart ? Un quart en termes de territoire,
ouais,
à peu près, c'est ça, c'est un
quart.
C'est un peu au nord. J'y suis allé, moi, j'ai eu cette chance quand il y a eu un match de l'équipe de France à Chypre. En fait, il y a un no man's land pour passer en Turquie.
C'est-à-dire qu'il
y a une espèce
de
village abandonné que tu traverses.
C'est un peu apaisé, mais
bon,
il y a toujours un conflit latent.
Oui, bien sûr. Expliquez-nous la situation, justement. Pourquoi il y a un bout de Turquie sur l'île de Chypre ?
C'est vrai que ça a été un territoire assez contesté, parce que c'est vrai que Chypre, c'est entre la Grèce et la Turquie. On sait que Grecs et Turcs ont toujours eu un petit peu des territoires qui ont été contestés. Et donc, Chypre, c'est un peu le révélateur de ce conflit-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est un peu plus tournée vers la Grèce, une autre partie qui est tournée un peu plus vers la Turquie. Et c'est vrai que le lien ne s'est pas fait entre ces deux territoires-là, parce qu'il y a toujours ce conflit qui est un peu latent. On le revoit avec Erdogan qui veut réaffirmer la Turquie vis-à-vis de la mer d'Égée. Et là, c'est un peu ce qui se passe aussi à Chypre.
Alors, ça me revient, c'est Jean-François Pérez qui est une bible en matière de géopolitique footballistique. Giroud, le club que vous avez affronté avec la GIA, c'est Famagouste. Vous vous en souvenez maintenant ?
Famagouste,
voilà, Famagouste. Ah, oui, c'est un nom qui fleure bon le soleil et alors, les vacances. Oui.
C'est vraiment le pays où les Russes viennent beaucoup en vacances. Et puis ils viennent un peu avec un peu d'argent et ils reportent sans l'argent qu'ils ont soigneusement placé.
Très bien. Alors, où ça, vous voulez dire à Chypre ?
À Chypre.
Ah oui, d'accord, mais ils ont fait quoi de l'investissement ? C'est pas l'île de Jersey quand même, enfin, c'est pour les placements.
Vous achetez des souvenirs ?
Ça joue le même rôle.
Ah, ouais. Ça joue le même rôle, d'accord. Parce que l'île de Jersey fait partie aussi de cette fameuse Konifa, comme la République turque de Chypre ou encore d'autres minorités. Expliquez-nous là ce principe de la Konifa dont vous parlez dans votre ouvrage « Football Club Géopolitique ».
C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'organisations qui ont essayé de fédérer un peu des équipes qui n'étaient pas reconnues par la FIFA, que ce soit des États, des minorités, ou parfois, il y a aussi par exemple le comté de Nice ou l'Occitanie. Là, le comté de Nice, ce n'est pas forcément pour faire l'indépendance du comté de Nice, c'est plus pour revendiquer un certain régionalisme. Et donc, c'est vrai que la CONIFA s'est créée au début des années 2010, et donc il y a différentes compétitions qui sont organisées pour effectivement rassembler ces différentes équipes qui évoluent au niveau amateur. Mais pour elles, c'est important de montrer leur drapeau, leur culture. Et donc, il y a eu une première Coupe du Monde en Laponie en 2014. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi. Il y a eu ensuite à Londres. Là,
qui a gagné en Laponie ?
Quel champion
du monde de la CONIFA ? Alors, le Père Noël, lui, distribue les cadeaux. C'était pas
joué. Je crois qu'à Londres, c'était la Chypre du Nord.
Il y a la Ruthénie aussi.
La Ruthénie, c'est le Kartik. Qui a peut-être finalement. Non, ouais. C'était
non je sais pas. Je vous dis ça comme ça. Non, parce que la Ruthénie, je vais vous dire une chose. J'avoue.
C'est dans Tintin, ça. Ça n'existe pas.
Non mais par contre, vous en parlez. Vous m'en reparlez, mais c'est vrai que non, je crois qu'il y a eu la finale 2018, c'est Ruthénie subcarpatique, qui est un territoire.
Tu vois que ça existe la Ruthénie.
Qui est un territoire.
Non, mais je
plaisante pas. Qui est une minorité roumaine au niveau de l'Ukraine et qui a gagné contre la Chine Nord en 2018. Il y a eu la Laponie. Par contre, il y a eu aussi d'autres présents de compétition et où il y a eu notamment une finale en 2006 avant la CONIFA. C'était aussi une coupe entre les différentes sélections. Et là, il y a eu Laponie Monaco. Pas l'AS Monaco, mais l'équipe nationale de Monaco. Et par contre, l'équipe nationale de Monaco s'était fait laminer par la Laponie parce que la Laponie jouait avec des joueurs qui jouaient en première division norvégienne ou suédoise. Et les joueurs de Monaco étaient au niveau amateur. Et il y a eu un score qui est passé les 10-0. Quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué.
Ces équipes-là, surtout le Tibet, je sais qu'ils ont participé plusieurs fois à la CONIFA. Ça a quand même. Pour eux, c'est quand même une vitrine pour revendiquer leurs droits, leurs. Face à la Chine, enfin à l'encontre de la Chine. Je sais que le Tibet était entraîné par un entraîneur suédois très jeune. Je crois qu'il avait la trentaine. Il est parti là-bas au Tibet, un peu comme dans le film 7 ans au Tibet. Et il est tombé amoureux des Tibétains. Et pendant 7 ans, et je crois qu'il l'est encore, sélectionneur de cette équipe du Tibet, il vit là-bas et il a. Son délire, c'est que le Tibet soit reconnu par la FIFA.
En fait,
je pense qu'il n'y arrivera jamais, malheureusement, mais il a fait beaucoup trop.
Il en a fait une bande dessinée, et notamment, il a expliqué que c'était en allant au Tibet qu'il a eu un peu cette révélation qu'il devait faire une équipe nationale là-bas.
Et j'ai oublié le nom, malheureusement, de l'entraîneur.
Moi aussi, j'ai oublié, du coup, mais par contre, il a créé l'équipe nationale là-bas. Et c'est vrai que le premier match qui a eu lieu entre. Il a fait le premier match contre le Groenland, et c'est vrai que la Chine avait même. Fait en sorte de dire par rapport au Danemark, nous on peut bloquer vos exportations si vous faites ce match.
Il y a eu des menaces de mort, ils ont fait.
Comme
quoi
la géopolitique, Giroud.
C'était un match que Tibet, Groenland et
la géopolitique est partout, Giroud, que ce soit international ou régional, dans le foot. Quoi.
Cette émission m'amuse beaucoup, je peux vous le dire.
Ça me fait plaisir.
Et notamment l'équipe du Tibet, quand elle se prépare, elle fait des stages en altitude.
Oui. Mais elle fait des stages à la maison, non? Parce que c'est quand même...
Personne ne rit, je vois que vous n'êtes pas très fort.
Mais non, parce que c'est en altitude, ils sont tout le temps en altitude, les Tibétains.
Je l'avais,
les stages en altitude, ils sont permanents pour le Tibet, non?
Oui, bah justement.
Mais oui, bien sûr, les stages en altitude. Mais oui, il faudrait...
Et puis, au Groenland, ils ont des matchs remis à cause de la neige.
Voilà, et puis l'île de Jersey, c'est une équipe qui joue tout en déplacement, vous voyez, ça peut le faire aussi. On peut trouver plein de vannes assez drôles. Vous ne l'avez pas, celle-là, les placements, Jersey? Non, c'est pas grave. Très bien. Est-ce que vous pensez que, pour terminer, Kevin Vessière, que si, par exemple, Marc Libra et moi, qui avons vécu tous les deux, pas au même moment, mais dans le 10e arrondissement de Marseille, on a envie de créer un club et faire, par exemple, renaître un club qui a disparu, Vivo Marronnier Sport, est-ce qu'on pourrait éventuellement, nous, s'inscrire et déposer, je sais pas, comment on appelle ça, un registre, une licence pour participer au championnat de la CONIFA? Ce serait possible ou pas, ça?
Mais pas un club, une sélection.
Une sélection, ouais, oui, bien sûr, la sélection.
Une sélection marseillaise.
Marseillaise du 10e arrondissement, ouais,
moi,
de Marseille.
Moi, je vous conseille d'essayer, puis vous verrez bien.
Vous en parlez dans le deuxième tome, si ça marche.
Bah voilà, exactement, je ferai un chapitre.
Lionel, il y a l'équipe de Corse aussi.
Il y a l'équipe de Bretagne.
Oui, mais il y a une équipe en Corse avec des joueurs qui jouent en Ligue 1, qui viennent jouer.
La Bretagne aussi, pourquoi plus la Corse?
Il y a
le Guenadu, tout ça.
Il y a une équipe de Bourgogne, Giroud, ou pas?
Alors moi, j'étais entraîneur de l'équipe de Bourgogne. Il y avait un championnat de France, des ligues, pendant très longtemps, dans les années 60. Alors il y avait en cadet, bien sûr, des interligues, mais il y en avait en senior. Et il y avait des... Bon, la Bourgogne, il y avait une équipe, il y avait des joueurs du Creusot, de Montceau-les-Mines, etc. Et on pouvait jouer contre le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, c'était avant que M. Hollande fasse des grandes régions.
Bien sûr. Et dites-moi, Guy, juste une question vraiment technico-tactique. Avec l'équipe de Bourgogne dont vous étiez l'entraîneur, vous jouiez le maintien ou pas?
Oui, non, on était repris d'office tous les ans.
Bon, alors ça va, ça vous a permis de jouer peut-être différemment qu'avec...
Non, mais cherchez dans les annuaires de la fédération, vous allez trouver les palmarès de ce championnat interligue.
Ça, c'est extraordinaire. Voilà, comme quoi le foot est vraiment partout, quoi, dans la société, dans la géopolitique. Et ce livre, Football Club Géopolitique, aux éditions Max Milo, signé Kevin Vessière, est passionnant. Vraiment, donc vous nous avez beaucoup apporté ce soir et vous avez même fait sourire Guillaume.
Vessière est cousin de notre ancien arbitre.
Ah, Gilles Vessière, je crois que ça ne s'écrit pas pareil, hein. Vous avez un Y, pareil. Vous, c'est
mais
pas la même chose.
Non, je ne le connais pas, mais on en parle beaucoup, c'est vrai. Mais...
Oui, c'est vrai. Gilles Vessière qui est adjoint maintenant à la mairie de Nice, mais qui a été un arbitre international de grande qualité et un très bon consultant aussi à l'époque de Canal+, une époque que vous n'avez pas connue, Aline.
Ah, non, j'avais pas la télé.
Vous n'étiez pas à Canal+ à cette époque-là. Ah, voilà, c'est ça que je veux
non,
dire.
Non, je suis encore très jeune, donc non.
C'est vrai, mais vous vous souvenez de Gilles Vessière quand même.
Mais oui, quand même.
Ah bon,
bien sûr.
On n'est pas si vieux que ça. Oh.
Moi, j'ai une toute petite question pour terminer. Ça vous vient d'où cette passion pour la géopolitique? Est-ce que vous préférez le foot ou la géopolitique?
Alors, de plus
parce
en plus,
que quand on s'intéresse pas au Tibet comme ça.
Je préfère plus la géopolitique et le foot. C'est vrai qu'à la base, moi, je suis supporter de football de moins en moins parce que je suis supporter des Girondins de Bordeaux.
Ok, bon.
Mais
ça va revenir.
Mais non, pour le coup, moi, c'est vrai que cet amour de la géographie et de la politique, c'est venu par le foot et la Coupe du Monde 98 avec tous ces pays qui participaient, notamment la Jamaïque. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils participent. Et par contre, après, de plus en plus, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus les à côté du football, plus que les résultats en ce moment. Quoi.
D'accord. Mais il y a un truc très intéressant. Mm-hmm. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup en géographie.
Là, t'as préparé un dossier pour SoFoot.
Oui, j'ai l'impression. Hein.
Nous, pour le coup, on s'intéresse à la géopolitique.
Ah, bah, mais t'es en train de préparer un dossier, là, d'accord?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non.
On va y aller.
Hein. Non, mais ce qui est intéressant dans la géopolitique liée au foot, c'est que moi, étant petit, je me rappelle que j'ai appris la géographie avec les Coupes d'Europe. Par exemple, Vidéoton, qu'est-ce que c'est, où c'est, ben où oui. Je peste.
Mais la géographie française aussi. Hein.
Mais la géographie française aussi.
Moi, j'ai appris la géographie française.
Franchement, c'est très bête. Mais je vous jure que ça vous fait progresser énormément, même en histoire.
Avec le CFA, on apprenait aussi.
Bien sûr.
Bon, alors avec le rugby, on apprenait le Sud-Ouest. Voilà. La Vlanée.
C'est pour ça que je suis contre la Super League, personnellement.
Bon, très bien. Kevin Vessière, Football Club Géopolitique aux éditions Max Milo. Merci, Kevin Vessière.
Merci à vous.
À bientôt sur l'antenne d'Europe 1. On reste avec nos experts. Avec Giroud, Aline Riera, Marc Libra, Javier Prieto Santos. On va parler ballon. Là, il y a moins de géopolitique. Hein.
Ah oui.
Quelle est l'équipe des quatre demi-finalistes que vous avez trouvée la plus séduisante? Il n'y a pas trop de place pour la géopolitique.
Moi, je récupère les livres des invités pour l'instant.
Ah non, mais vous avez Tilou Bleu, donc vous avez gagné la soirée.
C'est fait une bibliothèque.
Sur Europe 1.
C'est ça.
Europe 1 Football Club, Lionel Rousseau.
Europe 1 Football Club, les demi-finales de l'Euro. La première demain, Italie-Espagne. Et mercredi, eh bien, ce sera Angleterre-Danemark. On a posé cette question hier soir à nos internautes et à nos auditeurs, nos auditrices, Europe1.fr, le compte Twitter également d'Europe 1, de l'émission. Les résultats de ce sondage, cette question est la suivante. C'est tout simplement, quelle est l'équipe la plus séduisante de ces quatre dernières nations engagées donc dans les demi-finales de l'Euro? Italie, Espagne, Angleterre ou Danemark? Voilà les réponses et vous allez donner votre sentiment aussi dans quelques instants. Giroud, Aline Riera, Marc Libra et Javier Prieto Santos. Très largement en tête, l'Italie, 55%.
Et ça, ça vous fait plaisir?
J'adore ce sondage, j'adore.
Lionel a toujours dit qu'ils allaient gagner.
Dès le premier match, je dis que l'Italie allait gagner l'Euro, oui bien sûr, je le maintiens. 20% pour l'Angleterre, 19% pour le Danemark et 6% pour l'Espagne.
Ouh, c'est pas bien ça.
Non.
C'est pas gentil.
L'Espagne, bonne dernière. Alors justement, Aline Riera, est-ce que vous pensez que nos internautes ont raison?
La plus séduisante?
Oui.
Oui, en termes de jeu, c'est l'Italie, oui, je suis d'accord. C'est dur à dire, hein. C'est du mal.
Je sais, non mais parce que l'Espagne est tellement mal classée, malheureusement, vous avez raison.
Mais voilà, on est tellement loin que bon, allez.
Oui. Alors donc, on est loin. Pour vous, Marc Libra?
Oui, pour moi, c'est aussi l'Italie qui a pratiqué depuis le début le plus beau football et qui, quoi qu'il arrive, qui a mérité à chaque fois, à la fin de match, on se dit, il mérite de gagner.
Vous êtes donc dans les 55%. Ouais. Giroud, votre sentiment?
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime être dans la majorité, mais cette fois-ci, je suis obligé de reconnaître.
L'Italie?
Il y a quand même, si on parle de la séduction, c'est pas sûr que j'en fais pas mon favori. Mais pour la séduction et pour la reconnaissance de ce qu'ils ont montré jusque-là, oui, l'Italie.
D'accord, la plus séduisante. Et vous, Javier Prieto Santos?
Pour moi, les derniers seront les premiers, l'Espagne. Non, je rigole. L'Italie, évidemment. Mais mon cœur balance entre l'Angleterre et l'Italie. Je trouve que, déjà, ils ont un super maillot, l'Angleterre, mais ça ne date pas d'hier. C'est une équipe qui monte en puissance, même si je mettrais, comme tout le monde, l'Italie, mais pour faire original, pour mettre un petit
grain de sel, l'Angleterre.
Parce
que le maillot.
Parce que le maillot.
Ça compte le maillot pour vous?
Bah oui, ça compte.
Non, mais bien sûr, je suis très sérieux. Bien sûr,
mais je suis très sérieux parce que si le maillot d'un club est moche, quand vous êtes petit, vous n'allez pas le porter. Alors qu'un maillot qui est bien dessiné, l'Italie a toujours eu des beaux maillots, par exemple. Mais l'Angleterre, il est blanc, c'est basique.
Ouais.
Mais limite, vous portez à la ville et c'est classe, quoi. Je le fais pas, mais si je suis anglais, franchement, je suis content d'avoir ce maillot.
Avec un pantacourt et des claquettes, le maillot de l'Angleterre,
et
franchement,
les chaussettes,
l'été, c'est très bien. Ça
oui,
bien.
Le pantacourt, ça se fait plus, mais bon, pourquoi pas. Ouais.
C'est vrai, ça se fait plus, le pantacourt.
Enfin, moi, je suis pas pantacourt. Je suis pas team pantacourt.
Le maillot de 96 de l'Angleterre,
magnifique.
Il est magnifique.
C'était Umbro, la marque.
C'était pour pas citer de marque.
Non, mais
leurs maillots sont vraiment beaux pour le coup.
Donc citons aussi Adidas, Nike, et notamment, Nike, comme voilà. Ça c'est fait, on a trois marques comme on doit le faire dans les médias. Ouais.
Mais oui, le sondage, on peut que lui donner raison, c'est l'Italie.
Vous avez raison Guy, c'est sur la séduction, c'est pas tant sur le favori, parce que les quatre équipes peuvent gagner, hein, sur un match ou sur deux matchs, tout est possible, mais là on est vraiment dans le rapport à la séduction, la beauté de l'équipe, l'âme de l'équipe, ce que ça véhicule, ce que ça incarne. Et l'Italie, franchement, oui, c'est ça, elle nous enchante, elle nous emballe, quoi. Comme son hymne national.
Le costume des entraîneurs.
Oui, bien sûr, c'est vrai, Mancini, il est très très beau, ça.
Mais il y a eu un... Je trouve que l'Italie était l'ennemi public numéro un pendant un moment de la France, avec Materazzi en 2006, en 2000, ça a été les meilleurs ennemis. Et puis là, je trouve que les Français, cette équipe d'Italie a réconcilié les Français avec... le football italien. Et rien que pour ça, franchement, il mérite d'être premier dans ce classement parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Bien
On
sûr.
Sait tous les clichés qu'il y a autour des Italiens, en tout cas en France. Et je trouve qu'ils ont cassé tous ces clichés-là. Et pour le coup, limite, je trouve que les Français... ont pas du tout envie de voir ni les Anglais ni les Espagnols gagner.
Alors on va donner un petit coup de pouce à nos auditrices et nos auditeurs puisqu'il y a un nouveau sondage ce soir, comme chaque jour. Hein. C'est un véritable rouleau compresseur, c'est une machine infernale. C'est-à-dire qu'on propose tous les jours un sondage avec des auditeurs de plus en plus nombreux qui vont sur Europe1.fr notamment. Alors là c'est très simple, c'est assez basique mais c'est assez efficace aussi. Qui va gagner le match entre l'Italie et l'Espagne demain?
Ah, c'est compliqué ça.
Voilà, ça c'est ce qu'on vous propose et on proposera aussi pour Angleterre, Danemark évidemment. Alors moi j'aimerais bien avoir votre sentiment, votre choix, mais il faut l'argumenter le choix. Il ne suffit pas de dire Italie, Espagne, comme ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose derrière qu'il faut légitimer. Mais bien sûr, mais plus que jamais encore maintenant. Aline Riera, Italie ou Espagne?
Oh, c'est dur, hein.
Et évidemment, les auditeurs peuvent aller sur europe1.fr pour voter.
Je dirais que, en termes de fraîcheur physique, je pense que les Italiens sont un petit peu mieux. On fait sans doute un peu moins d'efforts, un peu plus complet et surtout le banc de touche est un peu plus costaud. Mmh. Je dirais que les Italiens me semblent un petit peu supérieurs. Après, le choix du cœur, ce sera l'Espagne. Mais sans Sarabia, je pense que ça va être compliqué parce que ça a vraiment été un détonateur. Ce changement a vraiment apporté quelque chose. C'est lui qui a de la verticalité. Il a quelque chose, mais tout seul, il n'y arrivera pas. Et s'il ne joue pas, je pense que l'Italie est quand même supérieure à tous les postes.
Très bien. Bon, Italie-Espagne, c'est parfait. Et vous, mon cher Javier Prieto Santos, Italie ou Espagne ?
Moi, je me méfie beaucoup du statut de favori de l'Italie. Je trouve que beaucoup de gens ici et ailleurs considèrent qu'ils sont déjà en finale. Et l'Italie a été très bonne dans un statut d'outsider jusqu'à présent. Donc je me méfie beaucoup de son statut de favori demain contre l'Espagne, puisque l'Espagne, ça les arrange. Mmh. Et ils ont un espèce de fou aux commandes qui est Luis Enrique, qui a fait jouer tous ses joueurs, ou presque, un peu comme Mancini. Alors effectivement, il y a des cadres qui sont fatigués en Espagne, mais il y a Marco Llorente qui est une bête prêt à bondir sur les Italiens demain, qui s'est quand même reposé lors des deux derniers matchs. Il y a Adama Traoré qui est un peu placardisé. Mais
qui n'a toujours pas joué.
S'il a joué contre la Slovaquie.
On aurait aimé un petit peu plus le voir.
Un peu plus, mais je ne serais vraiment pas surpris qu'il le fasse jouer demain, parce qu'il va falloir que l'Espagne ait... un peu de vitesse et pour le coup lui c'est tout ce qu'il a. Et voilà, je pense que ça va être un super match demain,
on le souhaite,
et je pense que ça va être serré surtout. Luis Enrique a une histoire contre l'Italie, s'est fait casser le nez par Tassotti en 94, il lui a pardonné il y a pas très très longtemps, mais c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime la bagarre. Alors il a beau avoir gagné la Ligue des Champions avec le Barça, mais s'il peut jouer un sale coup aux Italiens, il s'en privera pas.
Très bien. Giroud, Italie ou Espagne ? Et pourquoi ?
Allez, je ne vais pas être comme tout le monde. je vais dire l'Italie parce que... je veux dire l'Espagne. Parce qu'ils vont passer quand même le championnat des vétérans. Là, quand même, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Les deux arrières centraux qui font 71 ans, ça peut pas durer. Il y a bien des jeunes Italiens qui vont passer, mais... bon...
Oui, vous pensez que l'Espagne peut arriver à contourner Chiellini et Bonucci, la charnière centrale de cette équipe italienne,
voilà, exactement,
qui serait vieillissante.
Bon. Je pense qu'elle peut craquer sur un 1-2, sur une contre-attaque en vitesse pure, où il ne serait pas tout à fait bien placé.
Parfait. Italie-Espagne, Marc Librin.
Je pense que l'Italie va s'imposer. Ce 4-3-3 classique qui est bien rodé et qui apporte un plus parce que vraiment les joueurs sont interchangeables. On va voir ce qui va se passer sans Spinazzola, mais c'est Emerson qui doit prendre sa place, qui est habitué à ce rôle-là. Ça change tout. Et du côté de l'Espagne, ce qui me fait un petit peu peur, c'est cette charnière centrale qui, elle, évolue tout le temps. Alors, la porte est là, mais enfin, c'est pas Autores. Enfin, ça évolue tout le temps, ça bouge tout le temps. Est-ce que Azpilicueta va jouer? Parce qu'il avait, il n'avait pas démarré, puis il a joué.
Azpilicueta jouera, mais tu as raison, tu as deux centraux. Ça alterne avec Eric Garcia.
Je pense que ça va être un match très intéressant, mais je pense que l'Italie, ils sont habités actuellement. Et il peut se passer vraiment des choses. On sent une communion du côté de ces Italiens, que ce soit dans l'hymne, que ce soit pendant le match, que ce soit leur attitude, les accolades, enfin, ça ne s'arrête jamais. Un Donnarumma qui est vraiment en forme. Alors de l'autre côté, on a Simon aussi. Mais je pense que l'Italie est capable vraiment, vraiment de trucs. Et on n'a pas vu Ciro Immobile qui n'a pas été très bon lors du dernier match. Ben, il peut peut-être être sans match.
Et être l'homme fort comme l'a été
Insigné. Parce que ça a toujours été un joueur qui a fait la différence, qui est capable de le faire. Donc on va voir.
C'est un duel entre deux équipes où les latéraux ont quand même une très très grande importance dans le jeu. Si Jordi Alba d'un côté ou Spinazzola, malheureusement il ne sera pas là, Emerson. On les a vus, les Italiens attaquent vraiment sur les ailes et les Espagnols aussi. Sans les latéraux, c'est plus du tout les mêmes équipes. Donc, je pense que le défi sera là pour eux. Qui contrôlera qui va mettre la pression sur qui. Ça risque d'être intéressant, parce que Jordi Alba est pas le pardon de l'année.
Allez,
deux systèmes identiques, deux systèmes de jeu identiques.
Pour le coup, mais pas avec la même animation et le même dynamisme. Mais je sais pas, je pense qu'il va y avoir un bon match.
4-3-3, donc deux systèmes identiques, deux équipes, deux grandes nations et des joueurs qui ont très envie évidemment de se qualifier pour la finale.
Et aller l'Espagne.
Et aller l'Espagne, oui, bien sûr.
Ça,
voilà.
C'est dit.
Aller l'Espagne, tant que l'Italie gagne, de toute manière, vous pouvez dire aller l'Espagne autant que, de fois que vous voulez. Il n'y a aucun souci, évidemment. Mais maintenant, on va prendre juste quelques minutes avant de nous quitter provisoirement et de se retrouver aussi avec des combattants qui seront sur le ring et dans la cage de
pour
MMA.
Nous ah non,
pas avec
peur.
Vous. Non, non, non. Tout à l'heure, on leur posera une petite question sur le foot aussi pour terminer l'émission. J'aimerais, avec nos experts ce soir, qu'on se penche sur l'équipe type des quarts de finale, c'est-à-dire les équipes qui ont joué, les huit équipes qui ont joué pendant les quarts de finale, donc celles qui ont gagné, mais celles qui se sont fait éliminer également. J'aimerais qu'on aligne une petite équipe type ensemble, en commençant ligne par ligne, avec le gardien notamment. Tiens, Aline Oriera, on prendrait qui comme gardien de ces quarts de finale?
Bah pour moi, ce sera Yann Sommer.
Très bien, le Suisse alors.
Le Suisse.
Parfait. Ah bah non, mais il a le droit, écoutez, attends.
Non, c'est très bien.
Pourquoi vous râlez comme ça, Radia? Parce qu'elle n'a pas pris Simone?
Non, parce que tout le monde parlait de Donnarumma, elle nous a fait un petit choix de hipster.
Très bien. Et vous prenez qui alors, vous, Ravière, du coup?
Donnarumma.
Donnarumma, très bien. Marc Libra?
J'étais longtemps sur Sommer, mais finalement, c'est Unai Simone qui qualifie son équipe au pénalty, qui a su faire la différence.
Pour vous, Giroud, le gardien des quarts de finale, quel est-il?
Oh, je vais essayer d'être pittoresque, étant donné l'heure. Pour amuser un peu, le gardien anglais, avec ses sorties au pied à 30 mètres, qui se transforme en chandelle.
Dans la ligne de défense, vous avez le choix de prendre 3, 4 ou 2 comme vous voulez, peu importe le schéma tactique, mais parmi les meilleurs défenseurs, que ce soit les latéraux ou la charnière, de ces quarts de finale. Aline Riera, vous choisissez qui?
Alors, de droite à gauche, donc César Azpilicueta.
Ouais.
À droite. Dans l'axe, j'aurai une charnière Bonucci et Simon Kjær.
D'accord.
Et à gauche, Spinazzola.
Très bien. Javier Prieto Santos.
Azpilicueta à droite.
Ouais.
Après, je mettrai Magyar, Chiellini. Et à gauche, le Danois Melle.
Très bien. Marc Libra.
Moi, j'ai mis à droite Koufal, Maguire, Chiellini et Spinazzola, mais chaud. Était en remplaçant.
D'accord. Giroud, vous avez le droit d'en choisir un ou deux. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre, d'aligner une défense à 4 ou à 3. Hein.
Je ne peux pas faire une équipe comme ça.
Je sais bien. Ah non, mais je sais bien, Guy.
Vous pourriez nous prévenir avant 10h le matin.
Je sais, je ne vous ai pas prévenu, Guy. Je le sais parce que ce débat-là, il est tombé il n'y a pas longtemps. Mais un défenseur, Guy.
Non, moi, je vous prends les deux vétérans qui vont craquer.
Très bien, les Italiens.
Jusque-là, ils ont été très bons.
Chiellini, Bonucci.
Et au milieu de terrain, Guy, est-ce qu'il y a un milieu de terrain des quarts de finale qui vous a particulièrement séduit? Jorginho, peut-être, l'Italien?
Non, mais je ne peux pas voter comme ça au hasard.
D'accord. Bon, très bien.
Je n'ai pas réfléchi.
Je comprends. Aline Riera, au milieu de terrain.
Alors, je garde Jorginho.
Ouais.
Et je lui mets, même si c'est une paire un peu plus défensive, mais j'ai vraiment apprécié Pierre-Emile Højbjerg et Thomas Delaney.
D'accord. Ravière, mais votre milieu de terrain.
Moi, je garde Jorginho. Mm-hmm. Je mets mon petit coup de cœur, mon chouchou Pedri.
Mm-hmm.
Et je garde Busquets, parce que je trouve que c'est un énorme joueur,
Barella,
complètement sous-côté.
D'accord.
Mais Barella, on aura le temps d'en parler. Ah, Busquets, c'est l'un de ses derniers tournois. Bon, voilà.
D'accord. Marc,
Jorginho devant la défense, Melle et Barella.
Très bien.
Melle, tu le mets à gauche et tu le remets deux fois.
Moi, je ne l'ai jamais mis.
C'est Ravière qui l'avait utilisé. Comme défenseur et Marc comme milieu de terrain.
Tu ne m'écoutes plus.
Aline Riera,
c'est fini, ça y est.
Alors, l'attaque. Je mettrai en pointe Patrick Schick. Voilà, un petit coup de cœur aussi.
Ouais.
Et puis, alors, je vais les changer un peu de côté. Je vais mettre Raheem Sterling sur le côté droit, parce que je le pousse et parce que je voulais garder Insigne sur le côté gauche.
Très bien. Javier.
Moi, j'ai bien aimé, et c'est la seule chose que j'ai aimé de la Suède, Isaac.
Ouais.
Ensuite, je mettrai Insigne, effectivement, et un autre petit coup de cœur, Grealish, qui n'est pas à son poste, mais c'est pas grave.
Marc Libra.
Il fait jouer tous les jours.
Marc Libra.
Bonsoir.
Bonsoir.
Harry Kane,
ouais.
Schick,
ouais.
Sterling.
Très bien, pas une signée. Personne ne veut
je prendre
une
signée.
J'ai mis une signée, moi.
Ah, vous l'avez
à
pris
gauche,
une signée,
oui.
D'accord. Je suis sûr que Guy aurait pris une signée aussi, s'il avait un peu de temps pour préparer.
Il suffira de
excuses, Guy. Hein. Non, mais je sais que c'est compliqué, mais on a voulu essayer de revenir un petit peu sur ces quarts de finale pour arriver jusqu'à 21h44. Surtout.
Et le meilleur joueur du tournoi?
Ça sera lors de la finale, on ne peut pas le dire maintenant.
Non, mais aujourd'hui, la tendance pour vous?
Pour moi, c'était Spinazzola, pour l'instant.
Moi, je suis d'accord. Spinazzola aussi.
Mais il n'y a pas de gros star. Vous voyez, on n'a pas de sortie de grand nom.
On en parlera demain. Merci Ravière, merci Giroud, Aline Riera, ou encore, on a dit les quarts de finale, Marc Libra. On va parler de combat dans un instant. La boxe pied-point, le MMA, mais également au cœur de l'Euro de football sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1 Football Club, Lionel Rousseau.
Europe 1 Football Club ouvre les fenêtres ce soir et parle de sport de combat car l'actualité c'est aussi le Tour de France cycliste mais des grandes soirées de kickboxing ou encore de MMA cette semaine, jeudi et vendredi. On va vous donner tous les détails dans quelques instants mais d'abord je salue de grands champions qui nous accompagnent ce soir. Cyril Benzaken, champion du monde de kickboxing, de boxe thaï. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Lionel et bonsoir Gaël, je suis très heureux d'être avec vous ce soir.
Effectivement, Gaël Grimaud, champion MMA, est avec nous également. Bonsoir Gaël.
Bonsoir Lionel, bonsoir Cyril.
Alors on est content de vous réunir tous les deux, parce que même si vous ne vous êtes jamais vraiment croisés, ça aurait pu arriver sur un ring, hein, pourquoi pas, puisque Gaël, le MMA, c'est aussi la pratique du pied-point, évidemment. J'aimerais d'abord savoir si le foot vous réunit, on est en plein Euro, vous le savez, même si la France a été éliminée. Est-ce qu'en préparant vos combats, chacun, Cyril jeudi et Gaël vendredi, vous avez le temps de jeter un petit coup d'œil au football et à l'Euro, ou alors franchement, est-ce que ça vous indiffère totalement, Cyril?
Alors bah écoutez, moi je vous avoue que ça m'intéressait à l'époque où la France était encore en jeu. Maintenant j'ai un peu décroché de l'Euro.
Ouais. Et vous Gaël?
Ah, moi naturellement je suivais l'équipe de France. J'étais curieux de savoir comment ils allaient se sortir de cet Euro. Et puis là je regarde aussi des infos et dans les infos on a toujours du foot. Donc je suis de loin.
Il y a trop de foot selon vous à la télévision et à la radio, Gaël Grimaud?
Bah, c'est pas très bien réparti au niveau du sport. Mais après, ce qui est naturel, parce que le foot, c'est quand même un sport qui réunit pas mal de monde. Donc, voilà, c'est naturel.
Bon, vous savez qu'à La Réunion, on est très supporters de foot. Et comme vous en êtes originaire aussi, Gaël Grimaud, bah, on arrive à toujours à trouver de la place. Mais sur Europe 1, ce soir, on a décidé de faire de la place au sport de combat. Jeudi, donc, il y a le combat et la soirée d'ailleurs de kickboxing de Cyril Benzaken, ce sera au Manège Country de Rueil-Malmaison jeudi soir, et puis Paris La Défense Arena, c'est la grande soirée de MMA avec votre combat, notamment Gaël Grimaud, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord Cyril, on va faire ça chronologiquement, comme c'est vous qui démarrez jeudi, c'est une nouvelle soirée que vous proposez aux grands passionnés de boxe, de pied-point comme vous le faites, en tant qu'organisateur, promoteur, mais également vous montez sur le ring.
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, ça fait un petit moment que j'avais pas pu remonter sur un ring avec la crise sanitaire et avec mes collaborateurs. En fait, moi, comme tout sportif et tout athlète, je me suis bien entraîné depuis, on va dire, la fin du premier confinement. Donc, depuis plus d'un an, depuis mai, je m'entraîne à fond. Et ne voyant pas de date, j'ai dit à mon équipe, écoutez, je sais que c'est compliqué les grandes salles et les grosses réunions en ce moment, mais je veux boxer avant l'été. Débrouillez-vous, aidez-moi à organiser. Et du coup, on a mis en place une soirée un peu différente de celle qu'on met en place d'habitude, puisque là, c'est pour moins de personnes. Donc, on attend 500 personnes, 600 maximum, et plus un peu plus prestigieuse que ce qu'on a pu faire. Donc du coup, c'est au Country Club, au Grand Manège.
Voilà, et comment ça va se dérouler cette soirée, Cyril Benzaken, à Rueil-Malmaison?
C'est une soirée qui va se dérouler un peu comme la plupart des soirées qu'on a pu faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'arrivée du public, il y a 5 combats qui sont d'ailleurs retransmis en direct sur RMC, et en fait, il y a 4 combats franco-français et un combat international qui est le mien face à l'Italien Angelo Mirno. Et donc la soirée finira à peu près vers 22h30 et après ça sera l'occasion de tous se réunir autour de la boxe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés à Paris.
Oui. C'est vrai que le contexte sanitaire a été compliqué pour tous les sports, pour toutes les disciplines et notamment pour les sports de combat. Même si avant le confinement, je crois savoir qu'il y avait eu les premiers combats de MMA quand le MMA a été légalisé, Gaël Grimaud, ce qui vous permet aussi donc d'être bien exposé désormais avec cette soirée à Paris La Défense Arena. Ce sera vendredi soir. Là aussi, gros combat qui vous attend pour vous. Est-ce que c'est une satisfaction de retrouver la cage?
Oui, c'est une satisfaction. Ça fait 4 ans que j'ai pas combattu. C'est vrai que 4 ans, c'est long et en même temps, c'est assez court. Hein. Pour moi, j'ai vu, comme j'ai fait un tour du monde pendant un an, donc j'ai vu toutes les cages du monde, on va dire, à peu près. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on se bat pour que le MMA soit légalisé en France. Il a été légalisé l'année dernière. Il y a eu les premiers événements, notamment un événement français et puis un gros événement américain. Et on a eu tout de suite le Covid derrière, donc ça s'est tout de suite éteint, on va dire. Et là, c'est le premier événement français, vraiment français, qui va s'organiser, qui crée une ceinture mondiale pour l'occasion, avec une exposition à la Défense Arena. C'est tout juste un lieu magnifique. Donc voilà, c'est une excitation j'ai pas de nom pour mettre là-dessus. Hein.
Ouais, c'est vrai, la Défense Arena a accueilli notamment un combat de Tony Yoka, une soirée de boxe, il y a énormément de soirées de sport de combat. Comment vous vous préparez effectivement à ce retour, Gaël Grimaud, par rapport à votre combat, votre adversaire? Et donc c'est vrai, cette absence de compétition, en tout cas de cage, parce que je pense que vous avez gardé la forme néanmoins, mais pendant quelques années.
Oui, j'ai gardé la forme, comme je vous disais. Moi, j'ai fait le choix de partir un an dans les salles de sport parce que j'avais besoin de comprendre un petit peu comment les gens voient le sport de combat dans le monde. Donc, j'ai fait beaucoup de salles de MMA. Donc, je suis resté actif. J'ai rencontré des champions. C'est parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis au sport de combat, c'est de rencontrer les meilleurs. Et donc après ce tour du monde, je suis revenu en France, la crise sanitaire, etc. Donc voilà, je suis reparti à La Réunion il y a 2 ans. Et La Réunion, on est aussi une terre de combattants. On a beaucoup de spécialistes en boxe anglaise, en boxe thaï, en lutte gréco-romaine. Donc j'ai pris les meilleurs avec moi. On a constitué une équipe qui m'a accompagné dans cette aventure. Et pour aussi montrer le travail qu'on a pu fournir, c'est par exemple, c'est par un combat qu'on peut le démontrer. Et voilà, le vendredi soir, on aura l'occasion de montrer toute la panel qu'on peut avoir sur La Réunion et la préparation qu'on peut faire sur cette île, en fait.
Bien sûr. Et votre combat, ce sera le main event. Du coup, ça va être un peu tard dans la soirée, Gaël Grimaud?
Ouais, ça va être vers 23h, il me semble. Mm-hmm. Je ne connais pas le planning par cœur, mais je vais être le dernier combat.
Ouais.
C'est une exposition qui me plaît. Bon, je suis fier en fait d'être le Français qui va aujourd'hui défendre un premier titre d'une organisation française à Défense Arena. Donc voilà, c'est l'excitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est optimale.
C'est vrai, alors c'est vrai, Cyril Menzaken, c'est bien de retrouver le ring, l'organisation. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous aviez besoin, avant l'été en tout cas, de remonter sur le ring, de combattre, évidemment. Mais passer en dernier à chaque fois, comme vous aussi, vous serez le combat phare. Cyril, votre combat sera le combat phare. Est-ce que ça rajoute une petite pression parce que tout le monde vous attend, vous êtes attendu par le public, évidemment, il y a une espèce de montée d'adrénaline qui se fait pour tout à chacun, pour vous bien sûr, j'imagine, mais pour les autres également.
Alors évidemment que c'est une pression, après moi je la prends comme de la bonne pression et justement c'est le public me donne de la force. En fait, j'essaye toujours de tirer le bon parti de la situation quand je boxe à l'étranger et que je suis chez le public adverse, ça me donne de la force parce que je me dis il va falloir que je montre que le ring c'est chez moi et quand on est dans mon pays et dans ma ville, je prends la force du public avec moi et j'essaye de donner le max pour leur donner du spectacle.
Voilà, et vous êtes prêt, évidemment. Je le sais, Cyril, mais je vous pose la question pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes prêt physiquement, mentalement, vous êtes un vrai bosseur, donc vous avez bien préparé ce combat, n'est-ce pas ?
Exactement, et là, à l'heure où je vous parle, je sors de prépa mentale et je m'apprête à rentrer en prépa de boxe. Donc exactement, j'ai bien bossé sur tous les angles et j'ai hâte d'être jeudi.
Quand vous dites prépa mentale, ça consiste en quoi, Cyril Benzaken ?
Alors la prépa mentale, si vous voulez, en fait, ça consiste en des séances. Alors moi, je fais ça généralement 4 à 5 séances ou des fois moins avant le combat, où on va visualiser le combat, on va faire un peu aussi de sophrologie et on va se positionner, en tout cas positionner notre mindset, l'état d'esprit dans lequel je veux être le jour du combat, parce que je peux être le mieux préparé du monde, c'est quand même ma tête qui guide tout et mes émotions, donc il faut que tout ça soit aligné. Et du coup, bah, je fais beaucoup de mentalisation, de visualisation pour préparer mon cerveau et lui faire comprendre que ce que j'ai visualisé va se produire sur le ring et tout simplement le préparer à l'épreuve de jeudi.
C'est une forme de programmation neurolinguistique, et évidemment c'est très efficace. Gaël Grimaud, ça vous parle justement, cette mentalisation du combat? Vous vous préparez psychologiquement aussi de cette manière ou peut-être d'une manière différente?
Moi, j'ai pas de préparateur mental, mais avec l'expérience, ça fait 15 ans que je combats en MMA. Avec l'expérience, j'ai accumulé des techniques qui sont propres à moi et que moi j'aime beaucoup lire aussi sur le développement personnel et puis sur les techniques de préparation mentale. Donc j'ai vu ce que j'ai mis naturellement en place pour aller combattre à l'étranger ou dans des situations un peu compliquées comme la visualisation, etc. Donc j'essaie de remettre en place ce que j'ai acquis pendant ces années-là. Et puis, j'écoute beaucoup, enfin, tous mes amis sont des combattants aussi, et je suis à l'écoute de leur technicité, je prends ce qu'il y a à apprendre, ce qui m'intéresse. Et voilà, c'est quelque part, je fais de la préparation mentale avec toutes ces techniques-là. En fait, ouais. C'est vraiment primordial dans un combat.
Bien sûr.
On est sujet à une situation qui peut paraître difficile et impossible pour le commun des mortels. Donc il faut vraiment se préparer mentalement et aussi bien physiquement, quoi.
C'est vrai que quand on entre dans la cage ou quand on monte sur un ring, on est en version guerrier, en version super-héros. Alors, en effet, votre premier sport, Gaël Grimaud, en tout cas votre discipline phare pour venir au MMA, quelle était-elle? Parce que je sais que vous êtes spécialiste de pied-point, mais de JJB aussi, de jiu-jitsu brésilien, de judo. Quelle est votre première discipline forte?
Moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. Mmh. J'étais mis dans le judo par ma mère, en fait, un quartier un peu difficile, femme seule, et elle cherchait un moyen de nous sortir un peu, moi et mon frère, de ces conditions difficiles. Donc, elle m'a mis dans le judo et ça a été payant parce que le judo, j'ai fait jusqu'à l'âge de 25 ans. Complètement, j'ai fait de la compétition à haut niveau en judo et ensuite j'ai fait la transition avec le MMA.
Et le MMA, évidemment, vous a donné l'occasion aussi de porter une ceinture, évidemment. Vous, Cyril Benzaken, ça a toujours été la boxe, pied-point, bien sûr, champion du monde kickboxing, boxe thaï. Est-ce que vous avez pensé, une fois, parce que c'est très médiatique maintenant, peut-être, non pas à, encore que, mais peut-être pas à changer de discipline et à vous mettre au MMA, Cyril, pourquoi pas, mais organiser peut-être une soirée dans laquelle on pourrait mélanger le MMA et la boxe?
Alors oui, évidemment, ça, c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit, parce que c'est vrai, l'idée c'est de fédérer les différents publics qui ont les mêmes valeurs dans la famille des sports de combat. Donc c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, c'est encore un peu tôt, parce que voilà, le MMA vient tout juste d'être légalisé en France et moi je suis très heureux de ce choix et je pense pas du tout que le MMA va faire de l'ombre au kickboxing ou à la boxe thaï, bien au contraire. Je pense que même si le MMA est un sport beaucoup plus populaire, en fait il va faire du bien à nos sports, parce que ces sports font partie intégrante des axes de développement du MMA et du coup ça permet à des combattants de s'entraîner. Enfin, moi-même je m'entraîne avec plusieurs combattants de MMA et du coup je pense que c'est plutôt ensemble qu'on va avancer avec des événements où les deux vont se mixer, comme le fait déjà une organisation qui s'appelle le Bellator.
Absolument, bien sûr. Et monter dans la cage, rentrer dans la cage et vous mettre au MMA, Cyril, c'est trop tard ou vous y avez pensé? Ça vous a chatouillé un peu?
Alors, je suis pas très très branché sol. Du coup, ça m'a pas encore chatouillé. Enfin, du moins, il aurait fallu qu'on m'annonce une proposition intéressante pour que j'y réfléchisse. Mais pour l'instant, non, c'est pas dans l'humeur du jour.
Bon, faut en discuter avec Gaël Grimaud. Je pense qu'il a de bonnes informations et l'expérience suffisante peut-être pour vous accompagner. Merci à tous les deux en tout cas. Merci Cyril Benzaken. Jeudi, évidemment, votre grande soirée de boxe, Manège Country, la Reuil Malmaison avec évidemment Cyril Benzaken en combat phare. Jeudi donc à partir de 20h30, hein, c'est ça Cyril pour vous. C'est même 20h je crois. Et 20h30, Gaël Grimaud. Gaël Grimaud, Paris La Défense à Arena avec cette grande soirée de MMA, c'est vendredi, donc et là aussi vous serez pour le main event, mon cher Gaël. Merci infiniment, merci à tous les deux.
Merci beaucoup Lionel.
Entraînez-vous, entraînez-vous encore bien. On pense à vous et on sera là pour vous encourager, bien sûr. À bientôt, bonne soirée.
À bientôt,
à bientôt, merci.
Dans quelques instants, les informations sur l'antenne d'Europe 1, mais également la Libre Antenne. On se retrouvera demain à partir de 20h avec la première demi-finale de l'Euro, Italie-Espagne. Bonne soirée.